Vous êtes sur RTL.
Il est dessus depuis un quart d'heure.
À demain 5h.
À demain.
Merci Dominique Tenza et à toute l'équipe de nous avoir accompagnés et réveillés. Bonjour à vous tous, bon réveil. J'espère que vous êtes en forme. Merci d'être là dans un RTL matin qui sera très vert ce jeudi, car vous devez savoir que ce 29 juillet est le jour du dépassement. Alors je traduis, ça veut dire que nous avons déjà épuisé l'ensemble des ressources que la nature peut renouveler en un an. Un jour qui arrive de plus en plus tôt. Imaginez un petit peu, ce jour du dépassement en 1970 était fixé au 29 décembre, au 4 novembre en 1980, puis au 11 octobre en 90. En 2000, c'était le 23 septembre, le 7 août en 2010, et donc ce 29 juillet cette année. Ça veut dire que rien ne va plus, qu'il y a plus que jamais urgence. Cette terre, nous l'avons un peu, beaucoup, énormément abîmée. Et n'est-il tout simplement pas trop tard? C'est un inlassable défenseur de l'environnement qui viendra vous en parler ce matin. L'explorateur Jean-Louis Etienne sera en direct à 8h20. Lui qui passe sa vie au chemin de cette bonne vieille terre, où chez nous en France, il est 7h, soyez tous les bienvenus.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
7h, c'est Sophie Orange qui vous dit tout sur l'actualité en ce jeudi. Bonjour Sophie.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et ça commence par le grand sourire de deux Françaises aux Jeux Olympiques à Tokyo, Claire Beauvais et Laura Tarantola, médaille d'argent en aviron.
Une finale à suspense et deux championnes sur un nuage. Elles seront les invitées dont refait les Jeux dans quelques minutes. Reconfinement en Martinique, l'île est submergée par le Covid, les hôpitaux sont saturés et les soignants épuisés. Le braqueur présumé de la bijouterie Chaumet à Paris a été arrêté. Et puis on rendra hommage à Dusty Hill, le bassiste de ZZ Top, mort cette nuit à l'âge de 72 ans.
RTL Matin.
Un taux d'incidence qui frôle les 1000, des services hospitaliers qui n'ont jamais été aussi pleins. La Martinique va être reconfinée.
Couvre-feu à 19h au lieu de 21h. À partir de demain soir, il faudra à nouveau une attestation pour sortir à plus de 10 km de chez soi. Fermeture des restaurants, mais pas des commerces. Le département des Antilles frappé de plein fouet par une nouvelle vague. Le CHU de Fort-de-France est saturé. Le personnel soignant ne sait plus comment faire, Adeline Courson.
Allô. Oui. Son téléphone portable vissé sur l'oreille, le docteur Hossein Medaoui, chef du pôle réanimation, tente de désengorger son service.
Il y a un certain nombre de patients qui vont être transférés vers la métropole pour éviter de se retrouver complètement saturés.
Depuis quelques jours, en réanimation, on pousse les murs. 27 patients y sont admis pour 10 lits en temps normal. Et pour les accueillir, des services ont dû être réorganisés, voire fermés.
J'ai arrêté par exemple l'activité chirurgicale. Et on a récupéré des personnels du bloc opératoire pour venir nous aider.
À ces blouses blanches redéployées s'ajoute celle de la réserve sanitaire. Mais pour Sandrine, infirmière en réanimation, c'est très insuffisant.
Il y a des entrées toutes les 2 minutes. On a 3 patients au lieu de 2. Il faut tout le temps courir. Quand on nous prescrit quelque chose pour un patient et l'autre qui se dégrade, c'est presque ingérable.
Au manque de moyens humains s'ajoute une autre problématique, celle de la vaccination. À peine 16% de la population en Martinique a reçu ses 2 doses. Et comme le cas au hospitalisé depuis une semaine, beaucoup montrent de la défiance.
C'est pas assez clair, il y a toute une confusion et les gens ne savent pas si c'est bon, si c'est pas bon. Il y a toute une confusion qui fait que ça doit ralentir la vaccination.
Pourtant, sur les 150 patients actuellement hospitalisés au CHU, seuls 4 sont vaccinés et aucun n'a été admis en réanimation.
Adeline Courson en Martinique pour RTL. Reconfinement donc en Martinique. État d'urgence en Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. En métropole, le nombre de malades en réanimation frôle les 1000. Retour du masque dans le sud de la Corse et de Vaucluse. Le concert de Kenji Girac prévu hier soir à Bastia a été interdit par arrêté préfectoral. En métropole, 7 départements voient leur incidence dépasser les 400. Le pass sanitaire dans les transports ou le restaurant sera généralisé à partir du 9 août. Il est déjà en place dans les cinémas ou les musées qui constatent pour certains une baisse de fréquentation. Le Monde de la Culture qui a fait le point hier avec Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, et Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Nouvelle réunion prévue le 30 août prochain. Mais d'ici là, c'est plutôt l'inquiétude pour Richard Patry. Il est le président de la Fédération nationale des cinémas français.
La première partie de l'échange, ça a été de faire un point sur la situation, qui n'est pas bonne du tout. Les salles de cinéma ont perdu quasiment entre 50 et 60% de leur fréquentation en une semaine. On a vraiment l'impression que les ministres, et en particulier Bruno Le Maire, étaient au courant de cette situation. Et puis, la deuxième partie de la réunion a été consacrée à l'annonce des mesures, à la fois un rendez-vous plus formel pour faire le point fin août, et puis quand même des annonces de maintien d'aide transversale, au moins jusqu'au 31 août. Je pense que le gouvernement a compris les conséquences de la mise en place et de la précipitation de la mise en place de ce passe sanitaire dans les cinémas et dans les autres lieux de culture aussi, parce que je peux parler des théâtres, des festivals, des musées qui ont les mêmes problématiques que nous.
Le président de la Fédération nationale des cinémas français, joint pour RTL par Nathan Bocard.
Allez, entraîne pas, on file au Japon.
RTL à Tokyo.
Et vous allez découvrir ce matin la joie et la fraîcheur de deux Françaises médaillées d'argent en aviron, Claire Beauvais et Laura Tarantola, du suspense jusqu'au bout dans une finale remportée d'un cheveu par les Italiennes. Bonjour Nicolas Burnand.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL à Tokyo, c'est vous qui avez suivi leur course pour RTL?
Oui, une course au bout de l'effort, extrêmement serrée. Victoire au finish, quelques centimètres derrière l'embarcation italienne. Les larmes qui coulent sur le visage des Françaises lorsque leur nom s'affiche sur le tableau. Deux femmes, deux championnes au destin commun. La plus jeune, Claire Beauvais, 23 ans et originaire de la région parisienne, issue d'une famille de rameurs. Sa mère a été vice-championne du monde. Son père est entraîneur au club de Mantes-la-Jolie. Elle suit des études de kiné à l'université de Lyon. Installée à Grenoble, Laura Tarantola, 27 ans, est depuis toujours au club de l'aviron de la ville. Elle est intégrée au dispositif des sportifs d'élite de la SNCF. Les Françaises rament ensemble dès 2017 au Pôle France de Lyon, qu'il pleuve ou qu'il neige. Mais ces deux dernières années, Claire et Laura connaissent chacune des blessures qui les éloignent. Elles travaillent alors ensemble, repèrent sur FaceTime, se tiennent les coudes, se remontent le moral. Les tricolores expliquent former une paire très complémentaire, complice dans la vie. Le duo était déjà monté ensemble sur le podium du championnat d'Europe en 2019. À Tokyo, les Françaises sur un nuage se sont offerts le sommet de l'aviron mondial.
Merci à vous Nicolas depuis Tokyo en direct pour RTL. On va les retrouver, Claire et Laura, et elles sont super sympas. Elles seront en direct avec nous dans quelques minutes dans le journal des Jeux. Les autres résultats de la nuit, Sophie?
Pas de médaille, mais une quatrième place prometteuse pour Maxime Grousset sur le 100 mètres nage libre. La course reine remportée par l'Américain Dressel. Déception en revanche pour Charlotte Bonnet et Marie Vatel qui, elles, n'iront pas en finale du 100 mètres nage libre féminin. La judoka Madeleine Malonga qualifiée pour les demi-finales des moins de 78 kilos. Et en escrime, les fleurettistes françaises disputent en ce moment la demi-finale contre les italiennes. Et à noter l'immense déception pour l'américain Sam Kendricks, le perchiste double champion du monde et positif au Covid-19. Il ne participera pas donc aux qualifications de samedi. Jeux olympiques terminés et isolement dans un hôtel.
C'est la journée du dépassement, je vous le disais tout à l'heure. Ça veut dire que nous avons consommé plus que les ressources de la Terre.
Nous allons vivre 5 mois dans le rouge en entamant le capital naturel de la planète. L'empreinte carbone n'en finit pas d'augmenter. La déforestation continue. Il y a urgence. Sophie Jousselin, nous sommes revenus au niveau de 2019.
Oui, l'année dernière, il était arrivé le 22 août, 3 semaines plus tard qu'en 2019, conséquence des confinements décrétés sur la planète. Cette année, malgré la pandémie qui s'éternise, production et consommation sont reparties à la hausse. Un mauvais signe pour Arnaud Goffier, directeur des programmes au WWF.
La transition et le monde d'après, hein, qu'on appelait tous de nos voeux lors des confinements de 2020, en fait, ne s'est pas matérialisé. On recommence à émettre autant de CO2 dans l'atmosphère que précédemment. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a manqué une occasion. On a eu 16 000 milliards de dollars qui ont été dépensés dans les plans de relance et à peine 2% ont été fléchés sur la transition écologique et la transition énergétique.
La déforestation, elle, n'a jamais faibli, même au plus fort de la pandémie. En Amazonie, elle a même augmenté de 17% sur le début de cette année. Et dans 80% des cas, on déforeste pour produire encore plus.
C'est de pire en pire. Donc par exemple, manger moins de viande, consommer moins de bœuf, consommer moins de poulet, moins de porc qui sont nourris avec du soja issu de la déforestation. C'est un moyen très simple de faire reculer ce genre de dépassement et de baisser globalement les émissions de gaz à effet de serre.
L'agriculture et la déforestation sont responsables à elles deux de plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre.
Sophie Jousselin.
Et on prendra le pot tout à l'heure donc avec Jean-Louis Etienne, le médecin, l'explorateur qu'on connaît si bien. Il sera en direct avec nous à 8h20 sur l'état de santé de notre terre. 24 heures après le braquage d'une bijouterie de luxe à Paris, le braqueur et son complice présumé arrêtés hier en Moselle.
Un vol en trottinette électrique à visage découvert, une enquête rondement menée, Guillaume Chiez.
Oui, les policiers ont épluché les bandes de vidéosurveillance de la bijouterie, auditionné les témoins et ils ont pu très rapidement identifier le braqueur. Il loge dans une chambre d'hôtel en compagnie d'un complice. Le problème, c'est que les deux hommes ont déjà quitté la région parisienne. Hier au petit matin, ils ont sauté à bord d'un autocar direction Belgrade en Serbie. Les enquêteurs parisiens de la BRB ont donc demandé le renfort de leurs homologues de la BRI de Metz. Il faut les interpeller avant qu'ils ne sortent du territoire. Le car fait justement une pause sur l'aire d'autoroute de Longeville à 10 km de la frontière allemande. Les deux hommes, âgés de 44 et 54 ans, sont interpellés sans difficulté par la BRI. Ils transportaient avec eux une partie substantielle du butin dérobé avant-hier après-midi. Butin estimé à 2 700 000 euros.
Tiphaine Véron a disparu depuis 3 ans à Tokyo et toujours aucune piste. Ses proches ne croient pas au suicide ou à la disparition volontaire. Ils aimeraient que l'enquête soit relancée. Je ne sais pas comment on fait pour continuer à vivre, dit la maman de Tiphaine Véron, qu'on entendra dans le journal de 7h30 sur RTL.
Une colère à présent, Sophie, la colère des agriculteurs et des habitants de Merlet-Véné, c'est dans le Morbihan.
Manifestation hier pour protester contre l'installation de gens du voyage. Une réunion d'urgence est prévue demain en préfecture. Le dialogue est impossible, Nicolas Bobby.
Une cinquantaine de tracteurs a défilé devant le champ occupé illégalement par 200 caravanes. Le paysan Jérémy estime son préjudice à 7000 euros.
Qui va me rembourser ? Ça suffit. Aujourd'hui c'est chez moi, demain ça sera chez quelqu'un d'autre et pourquoi pas même chez un particulier.
Le propriétaire du terrain, Philippe Lelevé, a déposé plainte.
C'est l'enfer, tous les enfants ne sortent plus, parce qu'il y a des excréments devant les portes partout.
Encadré par de nombreux gendarmes, la manifestation s'est déroulée dans le calme. Marie-Andrée Luherne préside la FDSEA du Morbihan.
Tout le monde agricole en a marre, parce que c'est pas la première fois, c'est récurrent depuis des années.
Les élus portaient l'écharpe tricolore. Adjoint au maire de Merlevenay, Jean-Luc Leloc ne supporte plus ce salon de la caravane.
On les laisse faire ce qu'ils veulent. L'eau, l'électricité, les poubelles, qui va payer? Bah, ce sera la commune de Merlet-Véné, ce ne seront pas eux. Hein.
Tous les riverains sont inquiets.
C'est pas admissible, quoi. Mais ils n'ont rien à faire là. De toute façon, il y a des terrains prévus pour eux. Les nuisances, ça rôde partout dans le village, ça regarde tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a comme véhicule.
La communauté des gens du voyage n'a pas souhaité s'exprimer. Pas question non plus pour elle de lever le camp.
Reportage de Nicolas Bobby dans le Morbihan pour RTL.
Et puis Sophie, on a appris la mort de Dusty Hill, le bassiste de ZZ Top. Il avait 72 ans. Hein.
Membre du groupe depuis 1970, éternelle longue barbe blonde, 15 albums hein, quand même, un groupe de rock qui a marqué l'histoire de la musique américaine. Voilà, Dusty Hill mort dans son sommeil chez lui à Houston. Les deux autres membres de ZZ Top lui rendent hommage. Sa présence inébranlable, sa bonne humeur et son engagement permanent.
Sophie Orange vous a informé, vous avez toute l'actualité directement sur l'appli RTL. Bon réveil tout le monde, il est 7h11. Les courses, c'est Claire Fontaine, Sophie.
Tout à fait. Les pronostics de Jordan Philippi qui vous conseillent de jouer le 11, le 4, le 8, le 3, le 5, le 6, le 7 et la dernière minute, le 8.
Vous avez le droit de dire, j'ai failli oublier les courses ce matin. Claire
voilà,
Fontaine, donc pronostics de Jordan à retrouver sur l'appli RTL. 7h12 donc.
RTL, un été en France.
Un été en France.
Nous faisons étape ce matin au pied du pont du Gard, le chef-d'œuvre de l'Antiquité romaine classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes entre Uzès et Nîmes et ce superbe colosse de pierre, c'est la pièce maîtresse d'un aqueduc qui serpente sur 50 km dans la garrigue gardoise. Étienne Baudu, faites-nous la visite s'il vous plaît.
Cet impressionnant pont aqueduc enjambe les eaux du Gardon à l'endroit où la rivière est la plus étroite. Édifié au 1er siècle après Jésus-Christ, à peu près au même moment que les arènes de Nîmes, il culmine à 49 mètres de haut. Hervé Ubidos est le directeur culturel du site.
Alors le pont, il y a 3 étages. C'est le plus haut pont aqueduc connu de l'époque romaine. Pour donner une échelle, les arènes de Nîmes rentrent sous le premier niveau du pont. Voilà, donc c'est quand même un monument assez monumental. 3 niveaux d'arches. En gros, il fait 230 mètres dans son niveau le plus haut, c'est-à-dire au 3e étage. Mais avant, il était presque sur 300 mètres avec les 12 arches manquantes qui le prolongeaient.
Et c'est un chantier titanesque, 15 ans pour l'aqueduc et 5 pour le pont lui-même, avec tout le savoir-faire des ingénieurs romains.
Même à notre époque, ça serait un gros chantier, 50 km, c'est énorme. Et en fait, c'est surtout qu'il y avait un élément technique, c'était d'arriver à trouver une pente relativement faible qui permette un écoulement de l'eau entre la ville d'Uzès, la ville de Nîmes. L'eau était répartie après dans la ville, alors dans des équipements publics notamment. notamment quelques villas de riches, on va dire, nîmois de l'époque. Et donc tout ça, oui, c'était un défi technique important. Et on ne connaît pas encore toutes les techniques qui ont permis cette construction et cette précision, notamment sur le tracé.
Et l'aqueduc a permis aux Nîmois d'avoir l'eau courante pendant 5 siècles, il y a près de 2000 ans donc. Et lors de la visite guidée au troisième étage, dans la canalisation où passait l'eau, on est frappé par cette pierre dont on a l'impression qu'elle a été mal taillée.
Alors si la pierre est bien taillée, ce qu'on voit, toutes les parties qui sont un peu boursouflées, on va dire, c'est du calcaire. C'est-à-dire que l'eau était très calcaire et au fil de plusieurs siècles de fonctionnement, le calcaire s'est déposé et a construit comme ça ces éléments volumineux.
Le pont qui conserve d'ailleurs un certain nombre de mystères, hein. Par exemple, on constate à l'œil nu qu'il possède une légère courbure.
On pense que ça a été voulu, mais alors pour quelle raison? Est-ce que c'est par rapport au cru? Est-ce que c'est par rapport au vent? Est-ce que c'est pour freiner l'eau? Enfin voilà, honnêtement, la réponse, je ne l'ai pas. Les archéologues et les ingénieurs n'ont pas tout à fait les mêmes analyses, mais en tout cas, on la voit, elle est très nette.
Alors à noter aussi la construction au XVIIe siècle d'un second pont adossé au premier, le pont Pitot, du nom de son architecte, pour permettre aux charrettes de circuler. Il ne faut pas non plus manquer le musée dédié au génie de l'eau de la civilisation gallo-romaine et à la construction de l'aqueduc.
On voit un élément qui est important qui s'appelle la chèvre. Alors c'est, bon, on retient facilement le nom, mais c'était des sortes de grues en bois qui permettaient de soulever les pierres, en fait, de faire contrepoids pour pouvoir les transporter des éléments très volumineux. On peut imaginer qu'il y en avait tout en haut du pont, hein, quand on montait des pierres. Et ce qu'on voit au fond du chantier, c'est un cintre en bois, en fait, qui permettait de construire les voûtes, donc les arches qui constituaient le pont du Gard.
Et bien entendu, il faut profiter de la balade autour du pont avec de magnifiques points de vue depuis la garrigue, accompagné évidemment du chant des cigales.
Évidemment, Étienne Baudu, le pont du Gard, merci pour la promenade matinale. Un été en France et tous les jours sur RTL, régalez-vous. Il est 7h15, on va se régaler dans un instant. On a eu une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo. Au cœur de la nuit, si vous ouvrez les yeux, c'est l'aviron féminin français qui est monté sur le podium. A tout de suite.
Stéphane Carpentier,
RTL, plus d'alcool.
RTL à Tokyo.
Il y a des sourires ce matin, on a décroché une 9e médaille, enfin on, c'est surtout les championnes françaises. Bonjour à vous Baptiste Durieux.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Claire Beauvais, Laura Tarantola qui ont été sacrées tout à l'heure. Médaille d'argent, vice-championne olympique en deux de coupe poids léger, c'est encore l'aviron et ça a été une super course.
Très très belle course, 2 km en tout, mais tout s'est joué dans les 200 derniers mètres finalement. C'est une remontada, un finish incroyable au bout d'un courage et d'une abnégation formidable. Il était même impossible d'ailleurs sur la ligne d'arrivée de déterminer clairement quel était le résultat final. On parle de centièmes de seconde, de quelques centimètres d'écart. C'est pour cela aussi que cette médaille d'argent a énormément de valeur. Et donc, au bout d'un courage et d'une abnégation fantastique, elles finissent donc deuxième, les Françaises, derrière les Italiennes, mais juste devant les Néerlandaises.
Et on a la chance d'être connecté avec Claire et Laura depuis Tokyo avec cette médaille d'argent autour de vos coups. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous demande pas si ça va.
Là, ça va plutôt bien, ouais.
Sur une échelle de 1 à 10, vous êtes à quoi? À 20 en ce moment, là?
Ouais, à 50, je pense.
Ouais, je pense que 50, 70, 100, ouais, on est pas mal.
Vous nous la racontez, cette course folle?
Ah bah, elle était incroyable, hein. Franchement, ouais. J'ai même hâte de la voir en replay parce que de l'intérieur, c'était tellement la folie que je sais pas trop ce que ça rend, mais ouais, non, franchement, on a fait une course de dingue. C'était serré du début à la fin, on n'a rien lâché et... On s'est dépassé et ouais, en passant la ligne, on savait toujours pas ce que ça donnait et ouais, une énorme joie quand on a vu qu'on était médaillé et deuxième quoi, enfin juste incroyable.
C'est vrai, ouais. quand vous franchissez la ligne, vous rendez pas compte, c'est-à-dire que vous savez même pas si vous avez une médaille.
Ah oui, non, pas du tout.
Pas du tout, enfin vraiment on franchit la ligne et tout le monde a la tête dans le bateau, personne ne parle, toutes les filles à côté disent rien et on a toutes la tête tournée vers l'écran géant et ils affichent pas les secondes, c'est des heures et quand ils affichent, on voit qu'on est deux et Lorraine dit « Mais on est deuxième !» Et vraiment, moi je la regarde, je lui dis « Non, deux c'était notre ligne d'eau, on n'est pas deuxième !» Si, si, je crois bien qu'on est deuxième et là, on commence à réaliser. C'était ouf, hein. C'est, ouais. Non, au début, on savait pas et on n'y croyait pas trop et finalement, bah si.
C'est quoi? C'est le résultat de beaucoup de boulot. On imagine, vous êtes vice-championne d'Europe, c'était en 2019. Là, vous avez la médaille d'argent en 2021 à Tokyo. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça.
Ah oui, bah ouais, c'est énormément de travail, c'est... C'est la détermination tous les jours, c'est réussir à passer au-dessus de certains moments qui sont pas cool, là un contexte compliqué, être toujours au taquet. Et voilà, on a mis les choses en place pour vivre notre rêve et kiffer à fond. Et aujourd'hui, il se concrétise d'une trop belle manière et on est juste trop contente du chemin qu'on a parcouru, quoi.
25 ans, il a fallu attendre 25 ans pour avoir une médaille en aviron féminin, donc c'est pas rien, c'est presque aussi bien que les garçons hier. Je peux me permettre de vous demander à quoi vous avez pensé tout à l'heure sur le podium? C'est peut-être privé, mais quand même, je tente ma chance.
Bah, moi, j'ai pensé à... Ouais, à tout le chemin qu'on a fait, tous mes proches là qui sont en France. On a reçu énormément de messages de soutien avant les courses. On a essayé de se déconnecter un peu pour pas être trop prise par l'événement et pas penser à l'enjeu, rester juste focus. Et ouais, de pouvoir se dire qu'on l'a fait, quoi, et qu'on la ramène pour eux. Et juste trop contente et beaucoup de pensées pour mes proches qui sont à la maison.
Bah, un peu tout pareil, enfin, tous les gens qui étaient là et qui se sont levés ou qui se sont pas levés, mais qui avaient le cœur qui battait juste pour nous, et tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là et qui avaient leurs jambes avec nous dans le bateau, qui avaient tout l'espoir, et tous ceux qui sont là ou qui sont plus là, et voilà.
Je crois qu'il y a un copain de l'une de vous deux, alors je sais pas si c'est Claire ou Laura, qui disait faudra faire du 38, du 39 km/h. Vous avez fait du 41, je crois, non, c'est ça?
Cadence, ouais.
En cadence, ouais. C'est le nombre de coups par minute.
Ouais.
41, ah ouais.
Ah ouais.
Non, mais j'ai vraiment hâte de la revoir, cette course, parce que je m'en souviens même pas tellement on était dans le turfu.
Ah ouais, moi non plus, franchement, je me souviens juste que ça glissait dessous et qu'on était ensemble. Et je me souviens juste que Laura, elle poussait fort derrière moi et qu'elle m'emmenait. Et voilà. Et juste, oui, c'est une anecdote qui a eu beaucoup d'importance sur cet enlevage. Et voilà.
Hâte de rentrer à la maison pour fêter tout ça.
Grave. Ouais, hâte. Et puis en même temps,
on est tous partir.
Ouais, on se disait ça ces derniers jours, que ça fait plaisir. Enfin, on finit la saison là, mais on a juste trop envie que ça continue, tellement on était bien et on a profité vraiment de ce championnat. Et voilà, on va vraiment prendre le temps de savourer. Et ouais, hâte de partir en vacances aussi, parce que la saison, elle a été longue, mais... Ouais, franchement, on est juste trop épanouis. Enfin, là, on se sent hyper, hyper contente.
Merci
ouais,
d'avoir partagé le bonheur avec nous ce matin. Claire Beauvais, Laura Tarantola, voilà. C'est un plaisir XXL. Deuxième place de cette finale. Merci. De deux couples poids légers en aviron, ça n'est pas rien. Merci et bon retour en France. Profitez bien.
Merci.
Et ça fait 9 médailles donc pour la France désormais, avec cette médaille d'argent cette nuit. Il y a un beau programme encore aujourd'hui, Baptiste, avec notamment de l'escrime. Hein.
Absolument, au fleuret, les Françaises sont en demi-finale et affrontent en ce moment même l'Italie, 25-16 pour l'instant pour les Françaises, après leur victoire 45-29 contre le Canada. Il y avait la natation aujourd'hui également, finale du 100 mètres nage libre. Caleb Dressel, médaillé d'or. L'Américain bat au passage le record olympique en 47-02. Et dans la piscine, avec lui, il y avait Maxime Grousset, le Français, quatrième au pied du podium. Mais quelle course, Isabelle Langer.
Ah oui, hein, je peux vous dire qu'une fois encore, le Néo-Calédonien nous a épaté. Dès qu'il plonge, le garçon de 22 ans s'améliore et fait des prouesses dans l'eau. Alors oui, il n'a pas décroché de médaille, mais que c'est prometteur pour l'avenir. Son état d'esprit, son investissement pour ses premiers Jeux Olympiques sont indéniables. Maxime Grousset a tout d'un futur grand. Aujourd'hui, il a réalisé un 100 mètres sacrément costaud. Parti couloir 8, il a fait une course à l'aveugle, sans repère vis-à-vis de ses adversaires. Mais il ne s'est pas démonté. Il a fait le boulot et plutôt bien. Un vrai samouraï, le protégé de Michel Chrestien à l'INSEP. Écoutez d'ailleurs sa réaction chez nos confrères de France Télévisions.
Ouais, il n'y a aucun regret. Surtout que là, la troisième, elle est encore un peu loin. J'ai rien à regretter. J'étais huitième. Je suis venu quatrième. J'ai gratté des places. Sur un malentendu, ça pouvait passer, on avait dit. Je suis parti vite. J'ai essayé de tenir. Avec Michel, on a dit, on est au Japon. C'est pour faire Harakiri en finale. Donc voilà, on a tenté. Malheureusement, ça passe pas, mais ça passera pour la prochaine fois.
Et moi, j'ai déjà hâte d'être à demain pour les séries du 50 mètres. Il sera accompagné d'un certain Flo Manaudou. D'ailleurs, il nous le disait cette semaine, Maxime. Pourquoi pas faire un coup d'éclat à Tokyo comme l'avait fait le frère de l'or à Londres en 2012? Bon, en revanche, il y a eu des déceptions chez les Françaises. Marie Vatel a été éjectée de la finale du 100 mètres pour un petit centième. Elle en effet terminé 9e des demi-finales. C'est la Britannique Hopkin qui prend le dernier billet qualificatif pour donc un bout d'ongle. Moins de regrets pour Charlotte Bonnet qui a été dépassée et termine dernière de sa demi-finale. Pas de finale mondiale non plus pour Johan Ndoye Brouard sur 200 mètres d'eau.
Merci Isabelle à Tokyo pour RTL envoyé spécial. Il y a du judo aussi Baptiste.
Madeleine Malonga est en demi-finale des JO après sa victoire par Ippon au Golden Score en moins de 78 kilos. Demi-finale à suivre peu après 10h heure française. Et à 10h également France-Brésil, c'est pas du foot, c'est du rugby à 7 chez les filles. Deuxième match de poule, les Bleus qui se sont imposés face aux Fidji tout à l'heure en BMX également. Trois Français sont qualifiés pour les demi-finales et chez les filles en revanche une seule Française qualifiée, elle s'appelle Axel Etienne. En boxe également, victoire du Français Mourad Aliyev chez les super lourds, direction les quarts de finale pour lui. Et puis dans moins d'une heure, du tennis, il y a deux Français en lice, c'est quand même mieux qu'à Roland Garros, Jérémy Chardy et qui va affronter Alexander Zverev, gros morceau 5e mondial, et puis Hugo Humbert également.
Baptiste Durieux, les Jeux Olympiques, c'est en direct sur RTL depuis Tokyo et ici en studio, vous le savez, on refait les Jeux ce soir 18h30, 19h. Dans un instant, la pépite musicale, restez là s'il vous plaît.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
La pépite musicale d'Anthony Martin. Bonjour Anthony.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Quel est le choix du matin?
Alors dans la catégorie rendons à César ce qui lui appartient, intéressons-nous à cette chanson.
Tu veux, tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie.
Tu veux ou tu veux pas, du musicien de jazz clarinettiste Marcel Zanini. Il est devenu célèbre, tout comme son bob et sa moustache, avec ce morceau enregistré en un quart d'heure en 1969. 1 million de 45 tours vendus à l'époque, c'était du jamais vu pour un jazzman. Dans la foulée, Brigitte Bardot, puis plus récemment Amel Bent ou Elodie Frégé ont proposé leur version. Mais cette chanson très populaire n'est pas du tout née en France. Pour remonter à l'origine de Tu veux ou tu veux pas, il faut aller au Brésil, à Rio. En 1967, l'auteur-compositeur Carlos Imperial écrit « Nem bem que no thème », un morceau qu'il confie au chanteur brésilien Wilson Simonal. C'est notre pépite du jour. Voici la version originale de Tu veux ou tu veux pas. Plus j'adore. De soleil au réveil, ça fait du bien. Hein. Avec cette chanson de Wilson Simonal qui, librement adaptée en français, a donné Tu veux ou tu veux pas. Wilson Simonal n'est pas devenu populaire en France, hein, contrairement à d'autres grandes voix brésiliennes. Il a été aussi le premier à enregistrer ce qui est devenu un classique, la chanson País Tropical.
Évidemment. Pépite musicale du jour avec Anthony Martin.
RTL, toujours avec vous.
Le rendez-vous à ne pas manquer, les grosses têtes de Laurent Ruquier. 15h30, 18h, c'est tout simple, c'est 7 jours sur 7. Cet été, c'est le meilleur de la saison avec les incontournables citations.
Qui a dit aux zoos, tous les animaux se tiennent convenablement, à l'exception du singe. On sent que l'homme n'est pas loin.
C'est joli. C'est étranger, ça?
C'est français d'adoption.
Cioran?
Cioran. Ah. Bonne réponse de Florian Gazan.
On n'a pas le temps d'affiner, quoi, c'est ça.
Qu'est-ce que vous dites?
On n'a pas le temps d'affiner. Moi,
c'est vrai, Gazan, il a déjà la réponse.
Ça fait deux heures que vous affinez, vous.
T'as fait un fromage?
Moi, quand il est là...
Gazan, il donne déjà la réponse. Il y a Chakalov qui fait ça, mais
c'est grand.
Non, mais c'est exactement ça.
Qu'est-ce qu'il y a en gros, la boxe, c'est des blancs qui regardent des noirs se taper dessus.
Mohamed Ali.
Mohamed Ali lui-même. Bonne réponse de Florian Gazan encore.
Ah,
c'est lui qui a dit ça.
Et Chakalov, elle va dire ça, boxeur.
–
Les grosses têtes sur RTL, 2h30 de plaisir, c'est dès 15h30 ou alors le podcast sur l'appli RTL. Le temps du jour, Anthony, faut en profiter.
Oui, là je regarde ma carte, c'est incroyable, il y a des coins de ciel bleu un peu partout. Bon, il y a quelques nuages, évidemment, dans le nord-est, entre les plateaux lorrains et la Franche-Comté. D'autres vers les Hauts-de-France, certains aussi vers les Pays de la Loire, et un peu de grisaille au pied des Pyrénées. Mais donc, partout ailleurs, c'est un ciel totalement dégagé ce matin. Mais du coup, les températures en profitent pour bien baisser. On a seulement 10 degrés actuellement à Angers et Bergerac, 11 à Brest, 12 à Bordeaux, 14 à Lille, 15 à Paris. Et toujours une grande douceur dans le sud-est, 22 à Nice, 23 à Porto Vecchio actuellement. Alors en cours de journée, quelques nuages vont arriver par la Manche. Ils n'altéreront pas forcément l'impression de beau temps. Mais il y aura quelques nuages entre la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, avec ici ou là une rare averse possible. Alternance de nuages et d'éclaircies aussi entre les Pays de la Loire, l'Île-de-France et le Grand Est. Mais au sud d'une ligne qui passe par Bordeaux, Nevers, Strasbourg, ce sera du plein soleil tout l'après-midi, avec toutefois un petit risque orageux sur le Massif central et les Pyrénées. Puis en fin de journée, une perturbation pluvieuse abordera déjà la Bretagne. Les températures en cours d'après-midi, presque de saison partout, sauf près de la Manche, avec 20 degrés à Brest, 21 à Lille, mais 24 à Paris, 27 à Bordeaux et Strasbourg, 29 à Lyon, et toujours 32 à Marseille et 34 à Nîmes.
Profitez bien de ce 29 juillet, je vous parle pas de la suite, Anthony, non plus, parce que la suite, c'est juste l'enfer. Voilà, il faut le savoir. Je veux pas plomber le moral comme ça à 7h30. Bienvenue tout le monde, c'est RTL, vous avez fait le bon choix.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
7h30, toute l'actualité avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une, 3 ans après sa disparition, toujours aucune nouvelle de Tiphaine Véron.
Vous entendrez le témoignage poignant de sa maman qui regrette que la piste criminelle n'ait toujours pas été assez exploitée. La Martinique tire la sonnette d'alarme depuis minuit. C'est le retour de l'état d'urgence sanitaire alors que les services de réanimation sont au bord de la saturation. C'est un passage obligé avant le départ en vacances, la révision de la voiture, et que vous viviez à Paris ou en Bretagne, vous verrez que vous n'êtes pas logé à la même enseigne niveau prix. Enfin, à Tokyo, le champion du monde et athlète américain Sam Kendricks positif au Covid est donc forfait. Une perche à saisir pour Renaud Lavillenie. Le Français, lui, n'est pas forfait mais blessé à la cheville et compte tout faire pour aller le plus haut possible.
RTL Matin.
C'était donc il y a 3 ans, jour pour jour, Tiphaine Véron disparaissait sans laisser de traces.
L'auxiliaire de vie scolaire de 36 ans se trouvait au nord de Tokyo. Dans son hôtel, son passeport et sa valise sont retrouvés par les enquêteurs. Et depuis, sa famille regrette que l'hypothèse criminelle n'ait jamais été vraiment exploitée. Écoutez le témoignage de sa maman Anne.
Plus les temps passent, plus on se dit qu'elle a été séquestrée. Est-ce qu'elle a été séquestrée et tuée, séquestrée et maintenue en vie? J'espère qu'elle soit vivante, mais en même temps... quand je me dis ça, je me dis, mais vivante, mais dans quelles conditions? Vous vous rendez compte, si je découvrais dans 30 ans qu'elle était en vie et qu'on n'a pas été assez, on n'a pas été assez loin dans les recherches? La disparition, c'est la chose la plus effroyable qui arrive à une famille. Je ne sais même pas comment on arrive à continuer à vivre parce qu'on y pense matin, midi, soir, la nuit, on tourne et on se retourne et on se demande et on aimerait qu'elle nous envoie un signe. C'est peut-être ce signe-là, peut-être qu'elle va répondre à ce signe-là.
Anne Déserveron, la maman de Tiphaine, au micro RTL de Christian Panvert.
L'actualité, c'est également l'état d'urgence sanitaire de retour depuis minuit dans plusieurs départements d'outre-mer.
La Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy viennent s'ajouter à la Guyane et la Réunion. En Martinique, c'est déjà le cas depuis 2 semaines, mais dès demain, un nouveau confinement plus fort que celui déjà en place sera instauré pour 3 semaines, car les cas explosent et la population est très peu vaccinée, seulement 16%. Stanislas Cazel est le préfet de Martinique.
Sans doute parce que ici, plus qu'ailleurs, circulent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux avec une attention qui est forte, une écoute qui est très forte de la population. Et donc, je crois que c'est important, face à ces rumeurs, à ces informations parfois fausses, parfois incomplètes, d'essayer de revenir sur les fondamentaux. Oui, le vaccin protège. Il n'empêche pas à 100% d'être malade, mais il protège contre les formes graves. Ces données sur la transparence, elles sont très importantes. Donc, avec l'hôpital et l'Agence régionale de santé, nous nous organisons pour désormais communiquer tous les jours ces données sur les personnes hospitalisées, les personnes vaccinées à l'hôpital. Je crois que la population a raison de demander cette transparence et nous la devons à la population.
Le préfet de Martinique avec Adeline Courson, correspondante en Martinique.
Et c'est dans ce contexte que le gouvernement Hortense a dévoilé le protocole sanitaire pour la rentrée des classes.
Ce sera le jeudi 2 septembre et parmi les instruments que le gouvernement souhaite voir dans les sacs des élèves, il y a le vaccin. 6 000 à 7 000 centres de vaccination vont être déployés autour des établissements. Si un cas positif est déclaré dans une classe d'école primaire, elle devra fermer. Mais les règles seront différentes pour les autres niveaux, Nerissa Imani.
Oui, seuls les élèves totalement vaccinés pourront rester en classe s'ils sont cas contact. Problème, à ce jour, seulement 11% des 12-17 ans ont reçu leurs deux doses de vaccin. Les certificats de vaccination ne seront pas contrôlés au sein de l'établissement. En revanche, dès qu'un cas positif est déclaré dans une classe, c'est l'Agence régionale de santé qui va identifier les cas contacts et donc vérifier qu'ils sont vaccinés. Autre information concernant les collégiens de moins de 12 ans qui ne sont pas encore éligibles à la vaccination. Ils feront bien leur rentrée comme les autres, mais s'ils sont cas contact, ils devront s'isoler et revenir dans l'établissement après avoir fait un test PCR. Enfin, les professeurs non vaccinés ne sont pas considérés comme cas contact. Si un élève est déclaré positif dans leur classe, ils pourront continuer à faire cours tout en respectant les gestes barrières.
Les précisions de Nerissa Emanier concernant la vaccination. Plus de 41 millions de personnes ont déjà reçu une première dose. 33 272 000 sont-elles entièrement vaccinées. Par ailleurs, la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert pour l'utilisation du vaccin de Moderna pour les 12-17 ans. Le laboratoire avait déjà reçu l'autorisation de mise sur le marché européen il y a 5 jours.
La situation sanitaire, donc l'urgence du moment, la vaccination, autant de questions qu'on va poser à notre invité dans 10 minutes. C'est Martin Hirsch qui sera là en studio en direct, le patron de la PHP, les hôpitaux parisiens.
La rentrée, c'est donc le 2 septembre, mais d'ici là, place aux vacances. Samedi, ce sera noir dans le sens des départs sur les routes. Alors attention, et avant cela, vous ferez sans doute un passage par le garage. Et sur justement, le site idgarage.com a publié son bar remettre de la révision automobile et qui réserve pas mal de surprises niveau tarif d'une région à l'autre, Arnaud Touche.
Absolument, le site idgarage.com a analysé 3 millions de devis effectués dans plus de 4200 garages indépendants. Résultat, le prix de la révision générale est le plus haut en Nouvelle-Aquitaine, à 276 euros. A l'inverse, les garagistes des Hauts-de-France sont les moins chers, avec une révision générale à 235 euros. Et en 5 ans, le tarif moyen de la révision a augmenté de 18%. Vous paierez moins cher le changement du kit d'embrayage dans les Pays de la Loire, 725 euros. C'est 103 euros de plus si vous le faites en Bretagne. Mais depuis 5 ans, le comparateur en ligne observe un resserrement des prix entre les différentes régions françaises. Autre enseignement, le prix des pièces mécaniques a lui aussi augmenté de 2,2% l'année dernière. Cela s'explique par des délais de production et de livraison plus importants pendant la crise sanitaire.
Arnaud Touche pour RTL. En bref, c'est toujours une date redoutée et elle avance d'année en année et elle recule d'année en année. C'est le 29 juillet marque la journée du dépassement. Concrètement, l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la planète peut régénérer en un an. Nous vivons donc à crédit depuis aujourd'hui.
7h36 chez nous en France, il est 14h30. À Tokyo, au Japon, on part au JO.
RTL à Tokyo.
Et la France qui approche maintenant les 10 médailles avec la deuxième place cette nuit en aviron pour le 2 de couple poids léger emmené par Claire Beauvais et Laura Tarantola. On a aussi appris tout à l'heure le forfait du champion du monde à la perche Sam Kendricks. Il est positif au Covid alors que samedi c'est l'entrée en lice de Renaud Lavillenie. Le champion olympique en 2012 s'est blessé à la cheville il y a 3 semaines avec une rupture d'un ligament, mais il garde bien espoir.
Je ne désespère pas. De toute façon, je vais tout faire pour que ça puisse passer pour les qualifs. Ma dernière préoccupation est de pouvoir faire diminuer au maximum la douleur pour que j'ai le moins à serrer les dents possible. Le grand verdict sera samedi matin. Je suis quand même confiant, mais voilà, tant que je ne suis pas au stade, je ne pourrai pas savoir à 100% comment ça sera.
Mais du coup, Renaud, à vous entendre, il y a quand même une pointe d'inquiétude là.
Oui, il y a forcément un peu d'inquiétude parce que c'est clairement pas une position dans laquelle on rêve d'arriver, notamment pour un événement de cette ampleur-là. Après, je sais au fond de moi que je suis un battant, je vais pas lâcher. C'est pas dans ma nature d'abandonner comme ça en chemin. Donc, je me suis préparé depuis déjà plus de 2 semaines à être en mesure de sauter quoi qu'il arrive, avec de la douleur, sans douleur. Mais c'est évident que, il y a une vraie part d'inconnu qui s'annonce devant moi. Et il va falloir que je me bouge pour tout donner et puis surtout pour rien regretter, quoi. Donc, ça va être un gros challenge.
Renaud Lavillenie avec Isabelle Lange, envoyé spécial de RTL à Tokyo pour les JO et que vous retrouverez ce soir dans On refait les Jeux, présenté par Jean-Michel Rascol et Baptiste Durieux. Rendez-vous à 18h30. Et puis avec Kendricks positif, plusieurs membres de l'équipe d'Australie d'athlétisme sont à l'isolement car cas contact. Et puis en football, à 8 jours de la reprise du championnat de Ligue 1, la victoire hier soir de l'Olympique de Marseille face à Saint-Etienne en match de préparation. Victoire 2-1 dans les toutes dernières secondes grâce à un but d'Alvaro. Enfin, alors que les exploitants des salles de cinéma se désolent de voir la fréquentation baisser face à la mise en place du pass sanitaire, un film bat des records. Kaamelott d'Alexandre Astier a été vu en une semaine par plus d'1 million de spectateurs.
Et on imagine s'il n'y avait pas de pass sanitaire, le carton de ce film. Merci beaucoup Hortense Crépin. Toute l'actualité, c'est tout simple. C'est l'appli RTL. 7h38, l'Anglais Éco est à suivre avec Anaïs Bouissou qui est déjà en studio. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
On va s'intéresser aux agriculteurs et comment mieux les assurer. À tout de suite.
www.rtlmatin.fr.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Et donc l'angle éco avec Anaïs Bouissou. Comment mieux assurer les agriculteurs? C'est l'objet d'un rapport remis cette semaine au ministère de l'Agriculture. C'est devenu vital, Anaïs, cette meilleure prise en charge.
Oui, plus le climat devient fou, plus s'assurer se transforme en question de survie. Rien que cette année, en France, le temps a été anormalement chaud en hiver, soudain très froid au printemps, culture gelée, givrée sur place. Cet été, ça continue, il pleut tellement dans certaines régions que les sols sont gorgés d'eau, les céréales trempées dans les champs, ils risquent de pourrir sur place. Quant aux vaches, il faut parfois même les rentrer et entamer les fourrages d'hiver et on est en juillet.
Ouais, ça c'est dingue, c'est fou. Hein.
Et d'année en année, c'est la roulette russe. Vous tirez parfois la sécheresse, les inondations, les tempêtes, la grêle, les violents orages. Le temps perd sa boussole, emporte avec lui cerises, abricots ou raisins. Résultat, les revenus des agriculteurs sont devenus plus aléatoires qu'un jeu de loterie. Et d'après l'INSEE, au dernier comptage, un exploitant agricole sur deux gagnait moins du SMIC.
Et alors les assurances dans tout ça ?
Et justement, au moment où on en aurait le plus besoin, le système d'assurance est totalement inadapté. Seuls 3% d'arboriculteurs sont assurés et au mieux un viticulteur sur trois parce qu'ils ont l'impression de payer trop cher pour trop peu d'indemnisation.
Ça veut dire quoi ? Que les assureurs ne font pas leur travail ?
Et c'est là où ça se complique. Ce serait trop simple de pointer du doigt les méchants assureurs. Côté assurance non plus. Hein. Le secteur agricole n'est pas une partie de plaisir. Je viens de vous le dire, les agriculteurs sont trop peu assurés, ils cotisent peu, donc il y a peu d'argent qui entre dans les caisses des assurances, et pourtant il y a beaucoup d'argent qui doit en sortir. Assurer les agriculteurs, c'est perdre de l'argent. Forcément, ça ne donne pas non plus très envie de s'y investir. Pour vous donner un exemple, celui de Groupama, le numéro 1 du secteur, depuis le 14 juillet dernier, il a déjà payé, indemnisé, l'équivalent de toutes les cotisations qu'il avait reçues pour l'année. Donc là, toutes les pertes de l'été, elles seront assurées à fond perdu.
Alors concrètement, Anaïs, comment on fait pour que les agriculteurs et les assureurs s'y retrouvent ?
Que plus d'agriculteurs s'assurent pour cotiser davantage tous ensemble et pour être beaucoup plus couverts. Pour que ce soit viable, d'ici 10 ans, 60% des cultures de raisins, de blé, de maïs devront être assurées d'après le rapport remis cette semaine au ministre de l'Agriculture. Deux, il va falloir s'adapter pour les agriculteurs en choisissant des filières qui ont de l'avenir et pour les assureurs en indemnisant mieux des 20% de pertes quand c'est nécessaire. Et trois, l'État. La présence de l'État va rester indispensable pour les épisodes climatiques les plus graves. L'enveloppe nécessaire est estimée entre 600 et 700 millions d'euros.
Mais tout ça, c'est la clé. Ces transformations d'ici 10 ans, elles vont vraiment pouvoir sauver l'agriculture ?
Mais la solution la plus efficace, ça reste de s'acclimater au monde en mouvement, de prévoir des cultures plus résistantes, de travailler sur les ressources en eau, de développer le bio quand c'est possible. Mais au-delà de ces nécessaires changements, mieux prendre en charge les risques climatiques, ce sera la bouée de sauvetage d'un monde agricole à la dérive. Ce qui est en jeu, c'est rien de moins que l'avenir des légumes, fruits, viande que l'on pourra trouver ou pas dans nos assiettes.
Ouais, et ça prend une importance toute particulière aujourd'hui, jour du dépassement à plus de 5 mois de la fin de l'année. Les ressources que la Terre peut régénérer sur une année ont toutes été consommées. Merci Anaïs Bouissou, on en parle de ce jour de dépassement tout à l'heure avec l'explorateur Jean-Louis Etienne. Il sera en direct, notre invité, il sera 8h20. En attendant, c'est Martin Hirsch qui s'installe en studio, je le salue. Bonjour à vous.
Bonjour.
Directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, la PHP. On va parler de la situation sanitaire. C'est dans une poignée de secondes. À tout de suite.
RTL pour analyser la .fr. RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Merci d'être avec nous, 7h43, nous sommes jeudi, c'est donc Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, APHP, qui est notre invité ce matin en direct en studio. Martin Hirsch, avant la métropole, je voudrais qu'on s'intéresse concrètement à l'actualité chaude. Ce sont nos territoires éloignés, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Saint-Barth, Saint-Martin et la Martinique, où les cas explosent, où les hôpitaux sont complètement débordés. Est-ce que vous allez accueillir justement des malades, les aider ?
Oui, je pense que c'est en train de se préparer pour qu'on puisse très rapidement en accueillir quelques-uns. J'ai eu mon collègue qui dirige l'hôpital de l'Université de la Martinique hier au téléphone. Et on va essayer aussi de faire de la solidarité avec nos équipes, puisqu'on a dans nos rangs, dans les hôpitaux d'Île-de-France, dans les hôpitaux parisiens, on a un certain nombre de collègues qui sont d'origine antillaise, d'origine martiniquaise, dont certains ont eu leur congé et sont sur place, on va leur proposer de prendre quelques jours de volontariat à l'hôpital. Voilà. Donc on fait tout ce qu'on peut les uns les autres pour s'entraider dans ces situations très compliquées. C'est pour ça, et j'espère qu'on y reviendra, que ce que les Français peuvent faire, le sort est entre les mains de nos compatriotes, des Français. C'est ce qu'ils vont décider dans les jours qui viennent, qui va sauver ou pas des vies.
Ça va s'organiser justement ces transferts de malades. Vous avez un délai, vous imaginez quoi, la venue de ces malades, donc depuis la Martinique en particulier, en métropole, comment, dans
c'est
quel délai?
Vraiment dans les prochains jours. Ouais. Ce sont les autorités sanitaires qui décident. En tout cas, nous, on est prêts dès aujourd'hui.
Martin Hirsch, il y a une semaine, c'est Olivier Véran qui était à votre place, le ministre de la Santé, et à la double question posée, sommes-nous face à une quatrième vague et êtes-vous inquiet? Il avait répondu oui. Est-ce que vous avez le même discours ce matin?
Oui, et oui, bien sûr. Est-ce que nous on est dans une quatrième vague? C'est évident. Je vous prends quelques signaux. On sait les voir venir, on sait les voir commencer, les vagues. Les appels au SAMU, les gens appellent le 15. Ils appellent le 15 pour 36 000 motifs. Et puis on isole les motifs qui est « je pense que j'ai les symptômes du Covid ». Ça a triplé le nombre d'appels pour ça. De la même manière, les passages aux urgences. Parmi tous les malades qui passent aux urgences, on regarde ceux qui viennent aux urgences avec un Covid, et là aussi, ça augmente. La traduction dans le nombre de places ou le nombre de patients dans les réanimations est encore, on est au début de la pente, donc est encore faible, heureusement. Mais on est très clairement dans une quatrième vague. Mais la grande, grande différence avec la première, la deuxième et la troisième, c'est que cette quatrième vague, c'est vous, moi, l'ensemble des auditeurs là, qui nous écoutent, qui peuvent la contrer. On peut faire de l'anti-vague. On peut l'arrêter.
Voilà. En se vaccinant.
En se vaccinant, en utilisant le pass sanitaire. En se vaccinant. Vous savez, Stéphane Carpentier, quelle est la devise de la République française?
C'est liberté, liberté, égalité, fraternité.
Liberté, égalité, fraternité. Ça vous fait penser à quoi? Je suis sûr que vous m'avez compris, et que comme les auditeurs, ça fait penser au vaccin. Le vaccin, aujourd'hui, il est celui qui nous permet de faire vivre la devise républicaine. Liberté d'aller et venir, plutôt que de confiner les gens fragiles, plutôt que de se confiner, plutôt que de ne pas aller au spectacle, au restaurant, etc. Le vaccin donne cette liberté. Égalité. Le virus, c'est le plus inégalitaire. En France, on est pour l'égalité. Le virus, il déteste l'égalité. Le virus, il va chercher les pauvres, il va chercher les gens fragiles, il va chercher les gens déjà malades, il va chercher les aînés, il va chercher les gens avec une inégalité et il les crée. Le vaccin, en France, égalité. Gratuit, disponible pour tous, on va vers les gens pour y aller, on est égal devant le vaccin. On peut l'avoir. Et puis la fraternité. Ouais. Me coupez pas avant la fraternité. Oui, vous essayez de me couper. Mais, pardon, aujourd'hui, ne respectons plus les règles, quoi. Prenons chacun dans leur conscience. Pourquoi je dis fraternité? Parce que c'est ce qui permet, en se vaccinant soi-même, on se protège, bien évidemment. Mais on protège tous les autres. On protège ceux qu'on aime. On protège ceux avec lesquels on veut faire peuple. On les protège. Liberté, égalité, fraternité. Je le dis parce que vous aussi, vous devez être comme moi. Quelquefois, on est surpris. On se dit, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Tout d'un coup. Ou quand il n'y avait pas de vaccin, on attendait le vaccin. Ou on dit en général qu'il faut de la prévention, la médecine ne fait pas assez de prévention. Là, on a quelque chose avec de la prévention, on peut y aller, c'est gratuit, c'est la sécurité sociale qui nous permet ça, cette sécurité sociale à laquelle on est attaché comme des fous.
Ça, c'est votre discours, Martin.
Ah ouais, c'est mon discours.
Et je vous ai laissé aller jusqu'au bout.
C'est mes convictions, c'est dans les tripes.
Sur les réseaux sociaux, je vais avoir des messages dans les minutes qui arrivent en disant que ça, ce que vous dites, c'est de la propagande. Parce que le vaccin, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Parce que la liberté, c'est aussi la possibilité de ne pas se faire vacciner. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces gens qui disent ça aujourd'hui dans notre pays en 2021?
Mais je pense que la propagande, elle est de l'autre côté. Et la propagande, on l'entend avec des arguments qui sont complètement fous. La propagande, c'est d'avoir expliqué qu'on allait modifier les gènes en se vaccinant. Mais c'est complètement absurde. Par ailleurs, on est tous vaccinés. Enfants, on a tous été vaccinés. On était attachés aux vaccinés. Et justement, moi, ce que je leur réponds, c'est ça serait de la propagande si l'idée était « vaccinez-vous pour faire plaisir au gouvernement, au président de la République, aux hospitaliers pour qu'ils prennent en vacances ». Mais c'est pas ça, l'objectif. C'est juste
Vaccinons-nous, c'est pas de la propagande de constater. Dans les hôpitaux, qui est en réanimation ? C'est pas les vaccinés. Là, quand je prends les 50 entrées de la dernière semaine, 46 ne sont pas vaccinés. C'est pas de la propagande, c'est de la réalité. Non, ne croyez pas que c'est de la propagande.
Ça, c'est ce que vous dites derrière le micro rouge de RTL ce matin, Martha. Est-ce que vous leur dites physiquement à ces gens-là, quand vous les rencontrez dans les hôpitaux, dans vos personnels aussi, parce qu'il y a dans votre personnel des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, qui ne veulent pas du pass sanitaire ?
Il y a effectivement des gens qui soit ne voulaient pas spontanément se faire vacciner, soit qui sont encore hésitants. Les choses se sont débloquées. Hein. Vous m'auriez invité il y a 10 jours, je vous aurais dit 70 000 personnels de l'AP vaccinés. Aujourd'hui, je vous dis 77 000. Hein, donc il y en a 7 000 qui se sont fait vacciner
sur 100 000,
derniers jours.
Sur 100 000.
Oui, sur 100 000. Je pense qu'on ira complètement jusqu'au bout.
Qui ne veut pas aujourd'hui ? Les médecins, ils le font de plus en plus, hein, quasiment à 100%.
Oui.
Qui freine ? Les aides-soignants ? Les infirmiers qu'on entend ? Les infirmières qu'on entend ?
C'est très simple. Hein. Nous, quand on regarde, c'est à peu près... On compte 95% de médecins vaccinés. Peut-être que certains ne sont pas fait vacciner à l'hôpital, qu'on découvrira quand on leur demandera leurs résultats et que ça sera peut-être 98, 99 ou 100% alors qu'on ne sait en compter que 95%. Chez les infirmières, on est aujourd'hui à 2/3, 66%. Et chez les aides-soignants, les brancardiers, les agents hospitaliers, ça va un peu plus lentement. On est un peu en dessous de la moitié. On est à peu près à 50%.
Mais vous pensez que vous allez tous les convaincre ?
On va tous les convaincre et c'est obligatoire.
Et s'ils veulent pas, donc on a quelques semaines. Pas au final, ils quittent leur boulot ?
Et s'ils ne veulent pas, ils ne pourront plus travailler à l'hôpital. Alors, je comprends, c'est toujours dur. Mais là aussi, on n'est pas face à la propagande, on est face à des paradoxes. Je veux dire, toute personne qui travaille à l'hôpital a envie de protéger ses patients. Toute personne qui travaille à l'hôpital, on préconise la vaccination pour nos patients. Donc voilà, on a des principes, on se l'applique aussi à soi-même et on fait extrêmement attention. Donc avant, il y a 3 semaines, c'était pas obligatoire. Beaucoup de soignants que je rencontrais me disaient « je le ferai quand ça serait obligatoire ». Maintenant c'est obligatoire. Beaucoup de soignants me disent « oh là là, moi je l'aurais fait spontanément, ça m'énerve qu'on me dise que c'est obligatoire ». Ok, bon, on est tous bourrés de contradictions. Liberté, égalité, fraternité, c'est le vaccin. Bourré de contradictions, c'est la France. Et aujourd'hui, on va pas dans la contradiction. On se vaccine, on respecte le pass sanitaire et on évite que la 4e vague nous foute dedans.
Je reviens aux malades qui sont dans les hôpitaux, qui arrivent dans les hôpitaux en ce moment. C'est quoi le profil ? Ce sont des jeunes, beaucoup ?
Alors, ils sont plus jeunes qu'auparavant. Je n'ai pas la moyenne d'âge exacte, effectivement. Ils sont plus jeunes qu'auparavant pour une raison très simple. C'est qu'on est moins vaccinés aujourd'hui chez les jeunes que dans le reste de la population. Et c'est quand on voit la circulation du virus aujourd'hui, la circulation du virus, c'est très clair dans la région Île-de-France, où je connais très très bien les chiffres. Dans la région Île-de-France, la circulation du virus s'est faite à exploser chez les 20-30 ans. Ensuite, un peu chez les 30-40 ans. Les 20-30 ans vont forcément voir leurs parents, leurs grands-parents, des gens un peu plus âgés. Et là, ça passera. Et on retrouvera à la fois des jeunes et des vieux, très, très majoritairement non vaccinés. Sauf si, effectivement, on y va les plus nombreux possibles pour se protéger mutuellement.
Il va falloir le pass sanitaire pour entrer dans les hôpitaux très vite. Comment vous allez organiser tout ça ? Parce qu'à un hôpital, on y rentre comme ça, facilement aujourd'hui. Et tant mieux, mais il va falloir le pass.
On y rentrera facilement à partir du moment où on est soit vacciné, soit avec un test négatif.
Ça veut dire que vous aurez du personnel qui sera en place pour
bien
ça ?
Bien sûr, bien sûr.
Pour jouer
sûr.
La police ?
Pas pour
dans
jouer
un hôpital ?
La police sanitaire, ça s'appelle. La police, c'est les uniformes bleus, nous c'est blanc, et c'est la police sanitaire. La police sanitaire, c'est la protection contre la maladie et contre la mort, et c'est ça ce qu'on fera. Je préférerais mettre les gens à soigner les malades plutôt qu'à les contrôler, mais on va être obligé de faire les deux.
Ça sera à partir de quand, concrètement, le pass sanitaire pour entrer dans les hôpitaux ?
À partir de la promulgation de la loi.
Le 9 août prochain, si je me trompe pas.
C'est ce que j'ai entendu, effectivement, puisque le Conseil constitutionnel doit encore se prononcer, donc on s'y prépare. En sortant, j'ai une réunion sur comment on s'organise à l'entrée de chaque hôpital. Un mot important, bien évidemment, jamais on n'empêchera un malade de rentrer à l'hôpital.
S'il n'a pas de passe sanitaire.
Un malade, priorité au malade, c'est ça, c'est, Le service public, c'est ça. Donc, priorité au malade. Le malade, il rentre. On conseille à tout le monde d'aller se faire vacciner, etc. Le malade, il rentre. On ne va pas lui mettre de conditions en lui disant « Monsieur, la salle d'opération est prête, mais vous allez rentrer chez vous et on ne va pas vous ouvrir les coronaires ou vous réparer vos coronaires parce que vous êtes vacciné trop tard. » Bien sûr que non. Mmh. Mais en revanche, les visiteurs, les livreurs, quoi, tous ceux qui ont affaire à l'hôpital auront besoin du pass sanitaire.
Dernière question, Martin Hirsch. On remet le masque sur toute la côte atlantique, là, ces derniers jours, de la Vendée au Pays Basque, dans les rues, concrètement. Est-ce que ce masque, il faudrait qu'il revienne sur tous les visages, dans les rues, de tout le territoire ?
Écoutez, vraiment, je ne sais pas vous dire dans quelles conditions il doit revenir ou pas. Vous avez vu, moi je le garde là, c'est pas si gênant que ça. Plus on se protège, mieux c'est. Et puis sur la côte atlantique, il faut se vacciner aussi. Pardon, hein, j'ai l'impression d'être un peu monomaniaque. Mais quelquefois, il faut pilonner pour être entendu.
On restera sur ces mots-là. Merci Martin Hirsch, merci directeur de la PHP, les hôpitaux parisiens.
Liberté, égalité, fraternité, c'est quand même joli. Hein.
C'est joli. 7h55, entretien qu'on retrouve bien sûr sur l'appli RTL. Les pourquoi de l'été, c'est Cyprien Signy qui est en approche. À tout de suite.
RTL Matin. Pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL, les pourquoi de l'été avec Cyprien Signy.
Vous avez une question au cœur de l'été, pas de problème. Cyprien est là pour mettre les choses au clair. Il n'y a pas de petites questions, mais il y a de jeunes auditrices, la preuve.
Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 8 ans et j'ai une question. Pourquoi on entend le bruit de la mer dans les coquillages ?
Ah, j'aimerais tellement te dire qu'il y a quelque chose de magique là-dedans, que le coquillage garde en mémoire le bruit de la mer et te le restitue sur demande pour te réchauffer le cœur lors de tes longues soirées d'hiver. Ah, ce serait tellement romantique. Sauf que, eh bien pas du tout en fait. Non, retour à la réalité. Ce que vous entendez en collant votre oreille contre un coquillage, ce n'est pas du tout la mer. Vous pouvez même remplacer le coquillage par n'importe quel objet cylindrique et creux, un verre, un bol, vous entendrez grosso modo la même chose. C'est simplement que l'objet, en l'occurrence le coquillage, fait office de caisse de résonance. Il amplifie les sons qui se fracassent contre sa paroi et vous reviennent dans les oreilles. D'ailleurs, la forme et la taille du coquillage vont jouer un rôle dans le son que vous entendrez. Plus le coquillage est gros et profond, plus le son restitué sera grave. Il est donc maintenant temps de savoir pour vous que ce n'est pas la mer que vous entendez quand vous collez votre oreille contre un coquillage, mais tenez-vous bien, simplement le bruit de votre circulation sanguine. Ah ben oui, je vous avais prévenu que ce n'était pas romantique. En plus, la paroi épaisse de la coquille vous isole des bruits extérieurs. L'acoustique est donc optimale pour écouter votre sang circuler. Et si vous vous amusez à modifier de quelques centimètres de façon régulière la distance entre le coquillage et l'oreille, les nuances de son vous feront carrément penser à des vagues qui se fracassent sur la plage. Sensation forte garantie, car si ce qui n'est finalement qu'un bourdonnement sans grand intérêt nous rappelle la mer, c'est uniquement le fruit d'une association d'idées guidée par notre cerveau. Coquillage, mer, coquillage, vacances. Bref, l'important, c'est d'y croire et ça marche donc même avec un verre à moutarde, car tout n'est donc que question d'imaginaire et ça, c'est gratuit et à la portée de tout le monde. Preuve finalement que les choses ne sont pas si mal faites.
Pourquoi on entend le bruit de la mer dans les coquillages ? On a la réponse. Merci Cyprien. Les pourquoi de l'été, c'est juste avant 8h du lundi au vendredi sur RTL. Et dans la foulée, il y a notre ciel, la météo, avec plutôt une belle journée, Anthony.
Mais comme il n'y a pas de nuages ce matin, les températures en profitent pour bien baisser. Il fait seulement 8 degrés à Pleurdute dans le Morbihan actuellement, 9 degrés à la Motte-Beuvron dans le Loir-et-Cher, 10 à Angers et Bergerac, 11 à Brest, 12 à Niort et Bordeaux. C'est donc très frais pour la saison. Évidemment, ça l'est moins dans le sud-est avec déjà 22 à Nice, 23 à Porto Vecchio actuellement, avec donc un ciel qui est majoritairement bleu, plein soleil dans le sud une bonne partie de la journée, il y a quelques nuages bas ce matin dans le sud-ouest, il devrait rapidement se dissiper, et puis au nord, alternance de nuages assez rares, d'éclaircies assez belles, mais en fin d'après-midi d'autres nuages vont arriver près de la Manche et eux pourraient altérer cette sensation de beau temps, notamment entre la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, et on pourrait sur ces régions avoir une rare averse ici ou là, mais retenez que c'est bel et bien le soleil qui va dominer. On aura aussi un petit risque orageux sur les Pyrénées et le Massif central, et d'ailleurs la nuit prochaine, une dégradation orageuse marquée va concerner ces mêmes régions entre les Pyrénées, le Béarn et le Massif central. Pour les températures en cours d'après-midi, elles seront presque partout de saison, sauf dans le nord-ouest, avec 19 degrés à Cherbourg, 20 degrés à Brest et Lorient, 21 pour Lille et pour Caen, 23 à Reims, 24 degrés à Paris et à Biarritz, 26 à Dijon et Clermont-Ferrand, 27 pour Bordeaux et Strasbourg, 30 degrés à Grenoble, 32 à Marseille, 34 à Nîmes et 35 à 36 dans l'intérieur du Var.
Voilà le programme du jeudi. Merci Anthony. Merci de nous rejoindre. Si vous ouvrez les yeux, tout va bien. C'est RTL. On vous informe, on vous accompagne. C'est RTL matin jusqu'à 9h15. Merci d'être là. Il est 8h du matin.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
8h, le journal, c'est avec Sophie Orange. Bonjour Sophie.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une ce matin, la Martinique qui se reconfine, les restaurants vont à nouveau fermer et l'attestation de sortie fait son retour.
En métropole, les hôpitaux s'organisent. Le service d'urgence de Lavelanet dans l'Ariège ferme pour libérer des soignants. Le maire est en colère. Les Jeux Olympiques de Tokyo et une médaille d'argent en aviron pour Claire Beauvais et Laura Tarantola. On espère un podium pour la judoka Madeleine Malonga et une médaille sera assuré pour les filles en escrime qui viennent à l'instant de se qualifier par équipe face à l'Italie. Le budget de l'Elysée contenu car le président a moins voyagé cette année. Et puis la Grèce, destination très prisée des Français pour cet été.
RTL Matin.
Près de 28 000 nouveaux cas positifs enregistrés hier. On retrouve les niveaux du mois d'avril.
En métropole, 7 départements dépassent le seuil critique de 400 pour le taux d'incidence, notamment dans le sud de la France. Exemple dans l'Ariège, la situation est encore maîtrisée, mais les hôpitaux commencent à se remplir. Par anticipation, l'hôpital de Lavelanet ferme ses urgences pour libérer des soignants pour le secteur Covid. C'est la troisième fois en un an que cette décision est prise et elle ne passe toujours pas. Benjamin Pelsi, vous êtes rendu sur place pour RTL.
Avec cette fermeture, c'est un bassin de 25 000 habitants qui se retrouve privé de services d'urgence. Hier matin encore, 5 personnes ont fait face à des portes closes. Pas d'autre solution pour elles, pousser 30 km plus loin pour rejoindre le centre hospitalier intercommunal des Vallées d'Ariège, le Chiva.
Bon, on est désabusé, inquiet.
Bertrand Picmal est le représentant CGT de l'hôpital de Lavelanet.
On est à 30 minutes du Chiva. Ça fait quand même énormément d'habitants qui se retrouvent à parfois à une heure des distances maintenant des urgences. Si vous avez un problème cardiovasculaire, si vous vous retrouvez à devoir faire une demi-heure de plus, c'est une demi-heure peut-être où vous allez passer l'arme à gauche quand vous serez dans l'ambulance.
Avec l'allongement du temps de transport, le maire de Lavelanet, Marc Sanchez, craint que certaines personnes ne puissent être secourues, d'autant que la saison touristique augmente, les risques d'accidents dans la région.
C'est un territoire de montagne. Les randonnées, le vélo, le VTT, enfin, toutes ces disciplines aujourd'hui existent, l'escalade, et donc il peut y avoir une prolifération de petits accidents, de petits bobos, qui des fois demandent à ce que les secours interviennent rapidement. Notre territoire mérite qu'on ait des services de secours qui restent au niveau des urgences, opérationnels en permanence.
Le service d'urgence de Lavelanet restera fermé au moins jusqu'au 15 août.
Benjamin Pelsi, l'envoyé spécial de RTL en Ariège. Le nombre de malades en réanimation frôle désormais les 1000 personnes. La courbe repart à la hausse, mais la grande différence, c'est la baisse de l'âge moyen. 5 ans de moins que lors de la troisième vague. Expliquez-nous pourquoi, Odile Pouget.
Et c'est bien sûr la vaccination qui a changé la donne et qui explique en partie ce rajeunissement. Premier vacciné avec 2 doses, dans une très forte proportion, à plus de 80%. Les plus âgés, protégés des formes graves de la maladie, sont en effet beaucoup moins nombreux à se retrouver en réanimation. Les plus de 80 ans, par exemple, qui représentaient lors du pic du mois d'avril 28% des patients en soins intensifs, occupent aujourd'hui 4% des lits Covid. En revanche, les médecins s'inquiètent de voir arriver des malades plus jeunes sans comorbidité, contaminés par le variant Delta et non vaccinés, par négligence ou par méfiance. Selon les dernières données du ministère de la Santé, seulement 42% des 18-29 ans ont reçu leurs 2 doses.
Odile Pouget.
Le retard sur la vaccination, c'est ce qui explique notamment la flambée actuelle de l'épidémie en Martinique.
Un taux d'incidence qui frôle les 1000. L'île va être reconfinée à partir de demain soir. Restaurants fermés. Le retour de l'attestation car les hôpitaux sont pleins. Des patients vont être transférés en métropole, notamment à l'assistance publique hôpitaux de Paris, vient d'annoncer Martin Hirsch sur RTL. Les équipes soignantes en Martinique sont au bout du rouleau. Ça s'entend même dans la voix du docteur Medaoui, le chef du service réanimation du CHU de Fort-de-France.
Le problème auquel on est confronté là, c'est qu'on est entre le 14 juillet et le 15 août et donc on est obligé un peu de rappeler tout le monde et de se mettre en ordre de bataille pour faire face à cet afflux. Habituellement pour les Covid, on met une infirmière pour 2 patients. Là, on est à une infirmière pour 3 patients du fait de l'afflux de malades quoi, et on n'est pas capable de trouver plus de personnel que ça pour nous aider à les prendre en charge. Donc l'hôpital fait de gros efforts là pour essayer de recruter des gens, y compris à l'extérieur de l'hôpital. Mais c'est difficile. Et c'est difficile de les intégrer dans des équipes qui ont l'habitude de faire ça. Et ça crée une surcharge de travail pour ceux qui les encadrent, c'est-à-dire les gens expérimentés, et pas mal de stress pour les personnels qui viennent travailler là pour la première fois, quoi.
Le chef du service réanimation du CHU de Fort-de-France, au micro d'Adeline Courson, la correspondante de RTL en Martinique.
Restez bien là, 8h04, dans un instant, on va au Japon, Tokyo, les JO. Une certitude, on a eu une médaille d'argent cette nuit en aviron féminin tricolore. Et puis on aura une autre médaille en escrime. Les fleurettistes françaises sont en finale. On ne sait pas encore si c'est argent ou or, mais c'est une médaille supplémentaire. On sera à 10, hein, pas mal. À tout de suite, Tokyo. Oui,
faire. RTL Matin.
Et Sophie Orange pour la suite du journal à 8h06 avec des médailles pour les la France au Japon aux Jeux.
RTL à Tokyo.
Notamment assurée, en tout cas, puisqu'elle est déjà autour du cou des championnes, une médaille d'argent pour Claire Beauvais, l'autre pour sa partenaire Laura Tarantola, c'est de l'aviron. Elles ont terminé deuxième de la finale en deux de couple poids léger, les Françaises incrédules.
Quand ils affichent, on voit qu'on est deux. Et Laurent dit, mais on est deuxième. Et vraiment, moi je la regarde, je lui dis, non, deux c'était notre ligne d'eau, on n'est pas deuxième. Mais si, si, je crois bien qu'on est deuxième. Et là, on commence à réaliser, c'était ouf.
Ouf, ouf, elles sont bien deuxièmes. Les deux vice-championnes olympiques étaient les invités du journal des Jeux. C'était il y a une heure sur RTL. Bonjour Isabelle Langer.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Avec vous, on va faire le point sur ce qui se passe en direct avec un instant la très belle performance des fleurettistes par équipe. Elles viennent de se qualifier pour la finale.
C'est énorme ce qu'elles ont fait, les Françaises. Le début de match a été catastrophique contre les Italiennes. Après 4 relais, elles étaient menées 29. Toutes avaient perdu leur premier assaut. C'est Isao Ratibus qui a sonné la révolte en remportant son duel contre Martina Battini. Boostée, Pauline Ranvier et Anita Blaise sont revenues doucement mais sûrement sur les talons des Italiennes. Mais c'est encore une fois Isao Ratibus qui a délivré les bœufs lors du dernier assaut. Alors qu'elles étaient encore menées de 3 touches, Tibus l'a emporté finalement 45-43. Les Françaises iront donc à partir de 11h30 chercher une médaille en or ou en argent. Ce sera soit contre les États-Unis, soit contre les Russes qui concourent sous bannière neutre. En judo aussi, Madeleine Malonga, en moins de 78 kilos, va tenter d'aller chercher une médaille aujourd'hui. La vice-championne du monde a dû batailler ferme pour décrocher son billet pour les demi-finales face à la cubaine Camelia Antomarchi. Ça s'est gagné au Golden Score sur Ippon. Mais tout à l'heure, Madeleine Malonga va tout faire à partir de 10h pour aller en demi-finale contre la sud-coréenne Yoon. Et elle, si elle l'emporte, elle pourrait aller chercher une médaille et pourquoi pas la cinquième du judo français.
Merci beaucoup Isabelle Langer en direct de Tokyo pour RTL. Grosse déception en natation en revanche. Pas de médaille sur le 100 mètres nage libre pour le Français Maxime Grousset qui a terminé 4e, mais c'est prometteur. C'était ses premiers Jeux. Et puis l'immense déception aussi pour l'Américain Sam Kendricks, privé de Jeux Olympiques. Il est positif au Covid. Le perchiste, double champion du monde, est à l'isolement à l'hôtel. Il ne participera pas aux qualifications de samedi.
Et bien sûr, on suit l'évolution de tout ça en direct sur RTL. Et vous avez On refait les Jeux ce soir. Le rendez-vous à ne pas manquer, c'est 18h30, 19h. L'actualité encore, Sophie Orange, avec un budget maîtrisé à l'Élysée grâce au Covid.
Moins de voyages, donc moins de frais. La Cour des comptes vient de publier son rapport annuel. Un budget de plus de 100 millions d'euros qui a donc été tenu, William Galibert.
Oui, crise sanitaire, confinement, couvre-feu. Le président a beaucoup moins quitté son palais en 2020. 67 déplacements en France ou à l'étranger. C'est presque deux fois moins qu'une année normale. Budget voyage en baisse, donc, autour de 9 millions d'euros. L'argent a été réparti ailleurs. Par exemple, pour les plus de 70 millions d'euros en dépenses de personnel. 798 personnes dépendent de l'Élysée. Le cabinet du chef de l'État regroupe à lui seul 48 membres et le plus gros salaire, il gagne un peu plus de 13 000 euros par mois. On apprend aussi que le cabinet de Brigitte Macron a coûté un peu plus de 290 000 euros en dépenses de fonctionnement et que l'épouse du chef de l'État a reçu environ 25 000 missives l'année dernière, ce qui mobilise à plein temps 7 salariés du service courrier. Et puis parce que la Cour des comptes dissèque tout, et même un peu plus que tout, on sait que la vente des produits dérivés, boule à neige version Élysée ou peluche à l'effigie du chien Nemo, a rapporté 114 000 euros l'an passé.
Une idée de cadeau, pourquoi
la
pas
boule à neige.
William Galibert du service politique de RTL. Une fresque en hommage à Tiphaine Véron, inaugurée hier à Poitiers. Cette Française de 36 ans a disparu à Tokyo il y a 3 ans, jour pour jour. Toujours aucune explication. Sa famille a recruté arrêté un enquêteur qui devrait se rendre sur place prochainement. Il a fallu moins de 24 heures à la police pour arrêter le braqueur présumé d'une bijouterie Chaumet à Paris. Lui et son complice avaient pris un bus direction Belgrade. Ils ont été interpellés en Moselle, à 10 km de la frontière allemande.
Et puis vous allez peut-être faire partie des milliers de Français qui vont aller en Grèce cet été.
Le pays s'attend à battre des records. En temps normal, ils sont 1,5 million à vouloir visiter l'Acropole, Athènes ou flâner sur les îles grecques. Passe sanitaire exigé pour entrer dans le pays. Alexia Kefalas, vous l'avez constaté pour RTL, les Français sont partout.
Oui, il suffit de faire quelques pas dans la plupart des îles grecques pour croiser des touristes français. Chacun assume d'ailleurs son choix.
Nous sommes français, donc nous venons de Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes 7, nous voyageons en famille et nous sommes venus en Grèce. Déjà à cause donc du Covid, c'est un des rares pays qui ouvrait ses frontières. Et puis, nous ne connaissions pas la Grèce. Nous avons découvert et vraiment avec un réel plaisir.
Pour le beau temps, bien sûr, pour les gens.
Même l'écrivain de polar Christos Matkoyannakis n'en revient pas.
On ferme les yeux, on est sur les terrasses et on croit qu'on est sur les terrasses parisiennes. Tout le monde parle français, mais il y a une différence. Tout le monde est souriant, heureux, content d'être ici sous le soleil grec.
Il est trop tôt pour avoir des chiffres officiels selon le ministère grec du tourisme, mais les autorités s'attendent à des chiffres records de fréquentation des Français en Grèce cette année.
Alexia Kefalas, la correspondante de RTL en Grèce.
Merci Sophie, à tout à l'heure 9h pour toute l'actualité. Cette actu, vous la retrouvez quand vous le souhaitez évidemment sur l'appli RTL. Merci de nous rejoindre. Si vous ouvrez les yeux, il est 8h12.
RTL. Les Jeux sont faits.
Les Jeux sont faits.
En cet été olympique, nous passons tous les jeudis matins par une ville qui a reçu par le passé l'événement planétaire. Après Pékin et Londres, focus ce matin sur Sydney. La cité australienne avait accueilli le monde sportif en 2000 sur 36 sites, principalement près du centre-ville. Sydney qui a pris une dimension internationale grâce à ces Jeux réussis. Confirmation sur place avec vous Christophe Mallet, racontez-nous.
C'est avec une bonne dose de nostalgie que les Australiens se retournent vers leurs Jeux Olympiques de 2000 à Sydney. Et tout le monde ici se souvient des mots du président du Comité international olympique en 1993, là où tout avait commencé.
The winner is Sydney.
Depuis, Sydney est devenue une ville à envergure internationale, comme nous l'explique Mike Tomolaris. Il est commentateur sportif à la télévision nationale australienne, une sorte de Gérard Rolls local.
Ça a juste transformé la ville. Sydney était une ville globale avant les JO. Mais maintenant, je pense qu'on est au niveau de New York, Londres ou Paris. Les JO ont placé la ville dans une autre stratosphère.
Les JO de Sydney resteront de l'avis des spécialistes comme les meilleures Olympiades organisées jusque-là. Et une fois la page olympique tournée, et la facture de 7 millions d'euros payée, la ville est devenue un vrai hub touristique et attire en temps normal plus de 4 millions de visiteurs par an. Du côté infrastructure, il reste 9 installations toujours en activité aujourd'hui, dont le stade. Il est emblématique de la renaissance de certains quartiers de la ville. Sa capacité a été réduite de 30% pour s'accommoder des foules australiennes. Malgré cela, le quartier de Homebush, où il se trouve, est toujours un peu mal aimé des certains Sydneysiders, une sorte de nouvelle addition qui n'a pas encore gagné ses galons de quartier à part entière, même plus de 20 ans après. On s'y rend principalement en train et c'est en chemin que l'on rencontre Terry, un quinquagénaire un peu nostalgique de l'épopée olympique de Sydney.
C'était un très bel endroit, de très beaux moments. Tout le monde était plus content, plus avenant. Malheureusement, depuis, Sydney est devenu plus égocentrique, je trouve. C'est un peu triste à voir, car nous avons eu de si beaux moments en 2000.
On sort de la gare et on traverse juste la rue pour se retrouver devant le stade en lui-même. Nous y rencontrons Kate, une habitante du quartier, elle plutôt contente de l'héritage olympique de la ville.
Oui, moi je pense qu'il y a plus d'espace maintenant avec des parcs qui sont dédiés au sport et pas simplement pour les champions, les élites olympiques. Ça a permis aux clubs locaux d'investir dans leur avenir et de renforcer le sport.
Mais peut-être plus que dans ces murs, c'est dans la tête que les JO de Sydney auront changé les choses en Australie. On se souvient à l'époque de l'effort considérable fait pour inclure les cultures aborigènes au sein même de l'aventure olympique. Un effort qui, selon Karl, athlète aborigène lui-même, a payé.
J'ai de super souvenirs aux Jeux de Sydney. Quand j'étais en lice, il y avait tellement de communautés qui me regardaient. Et je suis content parce que depuis, il y a beaucoup plus de discussions autour de l'inclusion. Les aborigènes australiens ont besoin de ces histoires positives.
Aujourd'hui, l'Australie s'apprête à revivre l'émotion olympique. Brisbane venant d'être sélectionnée comme ville hôte pour l'Olympiade de 2032. Et certains volontaires des JO de Sydney en l'an 2000 se prennent même à rêver d'y participer.
J'ai vu l'annonce et je voulais encore une fois être volontaire, mais j'aurai 100 ans.
La ferveur olympique australienne se démontre donc au-delà des résultats ou des tableaux de médailles. Avec l'addition de Brisbane 2032, cela fera 3 Olympiades en moins de 80 ans sur le sol australien. L'Australie a donc bien un cœur olympique.
Christophe Mallet, RTL en Australie, merci à vous. Les Jeux sont faits, c'est tous les jeudis de l'été sur notre antenne. 8h16, dans un instant, on va s'intéresser à notre Terre, car c'est le jour du dépassement des ressources planétaires. C'est un homme qui connaît parfaitement notre planète, Jean-Louis Etienne, qui va nous rejoindre en direct. Il est médecin, il est explorateur. Il est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, c'était en 1986. Il est au chevet de la planète au quotidien. Alors, comment elle va, notre planète ? On lui pose la question après ceci.
Bu d'alcool.
RTL Matin. Stéphane Carpentier.
Merci de nous rejoindre à 8h19 sur RTL. Nous avions envie ce matin de nous intéresser à notre planète, je vous le disais. Alors que ce jeudi, ce 29 juillet, c'est le jour du dépassement des ressources planétaires. Pour comprendre ce que ça veut dire et mesurer l'état de santé de notre environnement, il nous fallait un homme qui vit au chevet de la planète. C'est Jean-Louis Etienne qui est connecté en direct. Jean-Louis Etienne, médecin explorateur. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous décodez pour les auditeurs, s'il vous plaît, Jean-Louis, c'est quoi ce jour du dépassement des ressources planétaires ?
Ben, c'est le jour, si vous voulez, on a consommé davantage que ce que la nature peut nous procurer. Je vous donne un exemple. On parle du réchauffement climatique, ça devient une évidence, effectivement. C'est par l'excès de gaz carbonique que l'on envoie dans l'atmosphère. Si vous voulez, et nous, l'humain, nous n'avons pas d'aspirateur à gaz carbonique pour l'extraire de l'atmosphère. Il n'y a que la nature qui peut le recycler, à la fois les forêts et les océans. Eh bien, aujourd'hui, nous émettons davantage de CO2 que la nature peut le recycler, ce qui aggrave, si vous voulez, l'effet de serre. Bon, voilà un exemple.
L'exemple est parlant, Jean-Louis Etienne, évidemment. Nous sommes le 29 juillet, ça veut dire qu'on a déjà épuisé l'ensemble des ressources que la nature peut renouveler en un an. C'est un jour qui arrive de plus en plus tôt, hein, Jean-Louis Etienne. Je donne juste un exemple aux auditeurs. Il était fixé au 29 décembre en 1970, au 4 novembre en 80, au 11 octobre en 90, au 23 septembre en 2000, au 7 août en 2010. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ?
Mais ça nous inspire qu'on abuse. On abuse des ressources de la Terre, si vous voulez. Et il est évident qu'il y a une démographie, bien sûr, qui est croissante. Il y a des pays émergents qui sont plus émergents, qui sont très puissants, comme l'Inde, comme la Chine, si vous voulez, avec une classe moyenne qui devient extrêmement consommatrice, je dirais peut-être sans ayant en tête, effectivement, les dégâts. Vous savez, le mot « recyclage » est un mot extrêmement important. Parce que dans notre image, si vous voulez, le recyclage, c'est traiter les déchets. En fait, ce qui est important, c'est quand on fait un produit aujourd'hui, c'est qu'on soit conscient qu'il puisse être recyclé dans son intégralité. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de cul de sac de déchets qui nous encombrent et qui sont toxiques, mais faire en sorte que tout produit manufacturé que l'on va faire aujourd'hui soit fait avec des composants qui puissent être entièrement recyclés. C'est comme ça qu'on va de plus en plus vers l'économie circulaire. Ça veut dire pouvoir recycler tout ce que l'on met en route dans l'industrie.
Est-ce que vous croyez encore, vous, l'inlassable défenseur de l'environnement, qu'on peut inverser les choses, ou alors c'est trop tard ?
Écoutez, j'ai confiance dans l'humain. C'est un mutant surdoué de l'évolution, si vous voulez. Regardez ce qu'on est capable d'inventer. Je vous donne un exemple. En 1972, vous voyez, il y a bientôt 50 ans, le Club de Rome... C'était des gens du MIT, des grandes institutions internationales, avaient fait une conclusion en disant « Tout le monde ne pourra pas avoir le téléphone car il n'y aura pas assez de cuivre ». Il y a 50 ans, on n'est pas imaginé, si vous voulez, que nous aurions le téléphone avec des satellites. Donc il y a une intelligence humaine qui est à l'œuvre. On a si vous voulez, on a conscience de la situation, on a l'intelligence des solutions. Mais là, il faut en mettre en œuvre d'une manière très, très urgente. Juste un exemple, on parle beaucoup des batteries lithium-ion qui sont très performantes. Mais le lithium, on sait très bien que c'est un matériau rare. Il va y avoir la guerre du lithium, entre guillemets. Des gens du Collège de France à Paris travaillent sur les batteries sodium-ion. Le sodium, il y en a partout. Et donc, voyez, cette évolution, c'est trouver des matériaux qui pourront être recyclés.
Ce jour du dépassement, Jean-Louis Etienne, la seule année où cette date a été légèrement repoussée, c'était l'an dernier. Hein. La pollution avait légèrement baissé sous l'effet des différents confinements. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut une catastrophe, une crise mondiale pour que la nature reprenne ses droits ?
Écoutez, si on peut éviter la catastrophe, ça sera bien. Je pense que on en vit une. Si vous voulez, c'est une catastrophe sanitaire, ce que l'on est en train de vivre. Et on voit d'ailleurs... On voit d'ailleurs que l'intelligence humaine a pris le relais en inventant en un an un vaccin à l'ARN messager. Donc voyez, l'intelligence humaine est là à l'affût. Donc cette pandémie, si vous voulez, elle est révélatrice. Elle est révélatrice que tout d'un coup, il y a une paralysie mondiale. Quand il y a une paralysie mondiale, qu'on ne peut plus bouger, effectivement, tout s'effondre. Donc, elle nous met en alerte et je pense qu'il va émerger des solutions technologiques. Alors, la solution, elle est comportementale. Mmh. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. On a tous une zone d'influence sur un meilleur avenir, à la fois personnel, professionnel, si vous voulez, politique. Mais si vous voulez, elle est comportementale et elle est technologique. On ne pourra pas se passer des produits de la modernité, si vous voulez, mais la modernité, elle doit tendre vers un recyclage de tout ce que l'on met en œuvre dans la vie de tous les jours.
Et justement, la conséquence de la surconsommation de notre planète, de notre société, de ce que nous sommes, hein, notamment d'énergie fossile, c'est le réchauffement climatique, Jean-Louis Etienne. Les catastrophes naturelles qui succèdent en ce moment depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, en Allemagne avec les inondations, en Belgique avec tant d'eau, au Canada où il fait tellement chaud, en ce moment en Californie où il y a des canicules incroyables, ça résulte tout ça de ce réchauffement ?
Oui, bien sûr. Bien sûr que ça arrive, si vous voulez. On est en train de déréguler complètement le cycle de l'eau, par exemple. 93% de l'excès de chaleur du réchauffement climatique est absorbé par les océans. 93% de cet excès de chaleur. Et l'on comprend effectivement qu'il y a un excès d'évaporation, de production d'humidité, si vous voulez, qui fait qu'il y a un dérèglement de du cycle de l'eau. Regardez ce qui s'est passé... du côté de Nice, c'était l'année dernière, si vous voulez. La Méditerranée est de plus en plus chaude. Et à la fin de l'été, on sait très bien que cette chaleur, évaporation, le vent de sud-est amène cette humidité vers les Cévennes ou les Alpes, si vous voulez. Et ça fait les préalpes, et ça fait des précipitations de plus en plus importantes, si vous voulez. Donc c'est une évidence qu'on a perturbé le cycle de l'eau. On a perdu du temps avec le réchauffement climatique. On en avait fait un sujet de conversation populaire. Vous voyez, des gens qui disent, tu y crois, toi, par exemple, hier, il faisait froid. Moi, je suis dans le Tarn, il faisait froid hier. Donc, deux personnes qui vont chez le boulanger disent, tu y crois, toi, au réchauffement climatique? Regarde, on est en juillet, on se caille. Ça ne se perçoit pas, le réchauffement climatique. C'est un degré que la Terre a pris en un siècle. C'est comme si elle avait 38 par rapport à la normale. Vous voyez, un degré de plus. Ça ne se perçoit pas. Si vous voulez, si on ne fait rien, on va vers du 39. Tout le monde sait ce que ça veut dire. On va vers des complications de plus en plus graves.
Vous bossez là-dessus, justement. Vous allez étudier hein, les effets du changement climatique sur les eaux de l'Antarctique, vous, Jean-Louis Etienne. Ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur.
Oui, alors ça, c'est... Si vous voulez, il y a un océan qui est autour de l'Antarctique. L'Antarctique, c'est le continent du pôle sud, qui s'appelle l'océan Austral, qui est certainement le principal puits de carbone océanique de la planète. C'est-à-dire, il recapte une grande quantité de CO2 que l'on envoie dans l'atmosphère par la combustion des énergies fossiles. On ne connaît pas bien sa performance et l'expédition sur laquelle je travaille depuis longtemps, PolarPod, c'est un grand flotteur qui va dériver autour de l'Antarctique et qui va permettre de mesurer la capacité de cet océan à absorber le gaz carbonique.
Est-ce que vous comptez, vous, sur la jeunesse pour changer les choses, pour tenter de le faire ? On entend beaucoup les jeunes, justement, prendre les choses en main là-dessus, à la différence de d'autres générations. Est-ce que la jeunesse, faut miser dessus pour faire avancer les choses ?
Alors, il est évident que la jeunesse alerte avec force. Et on ne peut pas, si vous voulez, tourner le dos, si parfois elle est même caricaturale, mais on a besoin de ça. La jeunesse, si vous voulez, nous alerte. Et en même temps, vous voyez, je faisais une conférence... dans une école d'ingénieurs, et je leur ai dit, donc, vous nous alertez, c'est bien, mais on parlait tout à l'heure des produits recyclables. C'est très très important, je dis, le recyclage, c'est vous qui allez trouver les matériaux de demain, dont l'investissement, il est important à faire. Vous représentez, si vous voulez, la modernité et les solutions, à la fois, comme je le disais tout à l'heure, comportementales, mais on a besoin de solutions technologiques pour faire face à la demande croissante, si vous voulez, des besoins de l'humanité. Bien sûr, il faut être des consommateurs intelligents, il faut être attentif, si vous voulez, ne pas consommer d'une manière démesurée et aveugle. C'est important. Le consommateur, il a le poids du choix. Et quand vous avez le poids du choix, vous pouvez influer, si vous voulez, sur la production.
Voilà pour votre regard précieux, Jean-Louis Etienne, à l'occasion de ce jour du dépassement des ressources planétaires sur notre Terre, sur notre planète. Jean-Louis Etienne, merci à vous. Belle journée.
Avec plaisir, bonne journée.
Médecin explorateur, on lira avec plaisir votre prochain bouquin qui sortira à la rentrée, qui est baptisé Explorateur d'océan. C'était toujours un bonheur d'échanger avec vous sur la situation du moment. Restez bien à l'écoute. Dans un instant, les grosses têtes. Et puis tout à l'heure, laissez-vous tenter la version été avec de la musique en version italienne. Ça va faire plaisir à tout le monde. On écoutera Claudio Capeo. Claudio Capeo, tout à l'heure dans Laissez-vous tenter, été, ce sera vers 9h-20. En attendant, il est 8h29, grosse tête et ciel, à tout de suite. La garantie bonne humeur sur RTL, la gymnastique de nos zygomatiques. C'est pas facile ça, hein, les grosses têtes. Dès 15h30 cet après-midi, les temps forts de la saison autour de Laurent Ruquier, où l'on parle de tout et même des légendes.
Moi je l'ai croisé. J'ai croisé de loin, de très loin.
Michael Jackson.
De loin, t'étais au Parc des Princes, c'est ça?
Ça, c'est intéressant. Vous avez croisé Michael Jackson,
oui.
Vous?
Il était dans sa voiture, vitre fumée.
Ouais.
Et j'étais sur le trottoir.
Ça, c'est sûr qu'il s'est pas arrêté.
Oh,
hein.
C'est vécu, là. Hein.
Une femme vieille.
Ah non, j'étais très jeune à l'époque.
Oui, mais même.
J'ai senti qu'il a tourné le visage, mais j'ai pas bien aperçu. Parce que la vitre était très, très fumée. J'ai vu son chapeau tourner. Bon, j'étais sur le trottoir.
Je crois qu'elle confond avec Daniel Gérard.
Il a quand même tourné la tête. Hein.
Michael Jackson?
Oui, mais de l'autre côté.
Les grosses têtes, soyez là cet après-midi, 15h30, 18h. Régalez-vous avec Laurent Ruquier et compagnie. On va se régaler. En tous les cas, on a une journée agréable côté ciel, côté météo, Anthony.
Ben oui, avec des conditions sèches, archi sèches, c'est pas facile à dire ça non plus, sur quasiment tout le pays. Bon, il y a quelques averses qui circulent évidemment encore près de la Manche, entre la Normandie et le Pas-de-Calais, mais rien à voir avec ce que nous avons connu les derniers jours, avec donc un soleil qui sera dominant partout. Il y aura quelques nuages ici ou là sur la moitié nord, et puis quelques averses orageuses sur les reliefs du sud, Massif central et Pyrénées d'une part, et puis les Alpes en soirée. Mais donc retenez que c'est le soleil que vous aurez dans votre ciel, et ça fait du bien, avec des températures cependant qui en profitent pour baisser un peu ce matin. On part de 8 degrés seulement dans le Morbihan, il fait 10 à Angers et Bergerac, 12 à Niort et Bordeaux, 14 à Lille, 15 à Paris, et toujours déjà une grande douceur dans le sud-est avec 22 à Nice, 26 du côté de l'Île-Rousse en Corse. En cours d'après-midi, on va retrouver peu ou prou des niveaux de saison partout, sauf près de la Manche, avec 19 degrés à Cherbourg, 20 degrés à Brest et Lorient, 21 à Lille et Caen, 24 à Paris, bon, on pourrait espérer 26 à Paris, donc ce n'est pas encore ça, mais 27 à Bordeaux et Strasbourg, 28 pour Agen, 29 degrés à Lyon, à Toulouse et Montauban, 31 à Montpellier, 32 à Marseille, 34 à Nîmes et jusqu'à 36 degrés du côté du Luc en Provence, dans le Var, le bonheur.
C'est pas mal aujourd'hui, donc ce jeudi après, ça se gâte très vite.
Ça se gâte demain avec une nouvelle perturbation qui va traverser tout le pays. Avant son passage, il y aura des averses orageuses. Après son passage à l'ouest, il y aura des averses et de timides éclaircies et des températures en baisse demain. Et ça baissera encore samedi et ça baissera encore dimanche.
Une vraie foire fouille, votre météo, Anthony. Merci, 8h34.
RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
L'actualité, les essentiels, c'est avec Hortense Crépin.
La situation épidémique toujours plus tendue. En Outre-mer, l'état d'urgence est rétabli depuis minuit en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La Martinique, elle, va voir son confinement renforcé pour 3 semaines. Dans ce contexte, la vaccination doit s'intensifier. Invité tout à l'heure sur RTL, le patron de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, explique que 77 000 de ses 100 000 membres sont désormais vaccinés. C'est 7 000 de plus qu'il y a 10 jours, un peu moins de la moitié moitié des brancardiers et des aides-soignants ont pour l'instant reçu leurs deux doses. Par ailleurs, AstraZeneca annonce que les ventes de son produit ont atteint les 1,17 milliards de dollars au premier semestre 2021. La grande réforme d'EDF, pas avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement en raison de désaccords avec la Commission européenne. Son PDG, Jean-Bernard Lévy, regrette lui que ce projet indispensable ne puisse se faire plus vite. Déjà le jour du dépassement pour la planète, concrètement à partir de ce 29 juillet, l'humanité a consommé toutes les ressources que la Terre peut régénérer en une année et vit donc à crédit jusqu'à fin 2021. À Tokyo, les JO et de neuf pour les Français avec une médaille d'argent en aviron cette nuit pour le 2 de couple poids léger, emmené par Claire Beauvais et Laura Tarantola. Et bientôt 10 médailles avec en escrime les fleurettistes françaises en finale de l'épreuve par équipe. Écoutez la joie d'Isaura Tibus, Anita Blaz et Pauline Ranvier.
Sur le banc, on y croyait toutes l'une après les autres et je pense qu'on s'est toutes un peu insufflé une énergie jusqu'au bout, quel que soit le score. À un moment donné, on était à moins 12. Les filles, elles étaient toutes avec moi et du coup, ben, j'ai tout donné. Je me suis dit, bon, je relâche la pression et voilà, et ça s'est bien passé. Merci à toutes les filles. C'est une équipe, hein, c'est une équipe. On est toutes ensemble. Bah, ça y est, on a notre médaille. Ce qu'on a fait là, c'est incroyable. On a puisé dans des ressources mentales hors normes. Jamais, jamais, jamais lâché. Jamais, même à moins 12. Sur chaque touche, j'entendais tout le monde qui croyait en moi. Ça m'a vraiment poussé. J'ai vu. Et voilà, j'ai cru, je sais pas. On est ensemble. Sur la dernière touche, voilà. Donc j'étais là chercher, quoi.
Les trois fleurettistes françaises chez nos confrères de France Télévisions. La finale, ce sera à 12h55, heure française, face à la Russie. En tennis, quart de finale en cours entre Hugo Humbert et le russe Kachanov. Pour le moment, le français mène 3-2 dans le premier set. À noter aussi la qualification pour la première finale du canoë slalom féminin de l'histoire des JO de Marjorie Delassue. Enfin, le champion du monde de la perche, l'américain Sam Kendricks, déclare forfait. Il est positif au Covid. Conséquence, plusieurs membres de l'équipe d'Australie d'athlétisme sont à l'isolement car cas contact. Enfin, notez bien votre rendez-vous à 18h30, c'est On refait les jeux, présenté par Jean-Michel Rascol et Baptiste Durieux.
Et toute l'actualité, c'est Hortense Crépin à 8h36.
Guillemette Franquet sur RTL.
Et demain.
Chaque matin, nous vous offrons un regard vers l'avenir après un an et demi de pandémie et ses prolongations. Chaque jour, un entretien avec une personnalité. Comment le Covid a bouleversé les vies? Comment préparer la suite? Aujourd'hui, face à face avec le psychiatre Christophe André.
Bonjour Christophe André.
Bonjour.
Comment allez-vous?
À cet instant, je vais bien. Merci beaucoup. J'espère que c'est pareil pour vous.
De manière générale, après la période difficile qu'on vient de vivre, vous vous sentez comment ?
Je me sens curieux. J'ai trouvé passionnant ce que nous avons tous vécu, la traversée de la pandémie, la traversée du confinement, et c'est assez historique. Et est-ce que finalement les sociétés vont tenter d'effacer tout ça et de faire des efforts désespérés pour que tout redevienne comme avant ? Est-ce que les citoyens vont s'opposer à ça ? Voilà, tout ça va être très intéressant.
Et justement, la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on n'avait pas dans le monde d'hier qu'on aura dans le monde de demain, selon vous ?
Il y a deux choses, moi, qui m'ont beaucoup frappé. C'est d'une part le retour de la mort dans nos conversations, dans nos préoccupations. C'est cette mort dont tout le monde disait que peu à peu, on cherchait à l'effacer de nos sociétés. Pour beaucoup de personnes, je pense que ça a rappelé à quel point nous étions des vénards. Et c'était très touchant lorsque les différentes strates du déconfinement se sont produites, la joie des gens à se retrouver en terrasse, faire des trucs dont on se foutait un peu. Moi, j'avoue qu'avant toutes ces histoires, quand je marchais dans les rues de Paris, je voyais des gens attablés en terrasse au soleil, je ne me rendais pas compte à quel point c'était bien.
Vous avez beaucoup parlé de chance, c'est ça la leçon que vous voulez qu'on tire peut-être du Covid, c'est à quel point en fait on a un peu tous de la chance d'une certaine manière ?
Oui, je pense que les Occidentaux ont une chance inouïe dont ils ne sont pas assez conscients, mais ça c'est ma déformation professionnelle en tant que médecin, spécialiste de psychologie positive. Ce qui me tracasse souvent chez les humains et chez moi, c'est ce qu'on appelle l'habituation hédonique, c'est-à-dire la tendance à s'habituer à tout ce qui est bien dans nos vies. Quand on vit en démocratie, on s'habitue à la démocratie. Et au bout d'un moment, on ne fait que la critiquer ou qu'en critiquer les limites.
Vous, Christophe André, si vous deviez choisir un mot pour qualifier le Covid, quel serait-il ?
Une grosse claque. Oui, ou un réveil brutal, parce que finalement, ce qui s'est passé avec le Covid, la plupart des médecins savaient que ça aurait lieu. On savait tous qu'avec la multiplication des échanges, avec la proximité écologique entre les humains, les animaux domestiques, les animaux sauvages tels qu'elles existent en Chine, ça n'aurait pas dû nous surprendre et on aurait peut-être dû être un peu plus préparé, mais les réveils sont donc brutaux.
Est-ce qu'il y a un son ou une musique qui aurait été important pour vous, quelque chose que vous avez beaucoup écouté pendant le confinement, par exemple ?
J'ai pas beaucoup écouté, enfin pas plus que d'habitude, mais j'ai joué. Moi, j'adore jouer de l'accordéon. Et j'ai eu beaucoup de temps, comme tous les musiciens amateurs, pour faire de la musique. Et le son du confinement sera le son de mon accordéon, pas très bien joué, mais qui me faisait plaisir de prendre chaque jour.
C'est l'avantage d'être chez vous, c'est que... Est-ce que vous acceptez de me jouer un morceau ?
Bah écoutez, oui, avec quelques fausses notes, bien sûr.
Merci beaucoup, Christophe André.
Merci à vous.
Et demain, avec l'accordéon, les rencontres de Guillemette Franquet avec une personnalité, Christophe André, en ce jeudi 29 juillet. Il est 8h41, dans un instant, c'est la culture et la musique. Dans la version estivale de Laissez-vous tenter, la musique est l'un des cartons de la saison, c'est Claudio Capeo. En version italienne, ce sera dans un instant. L'occasion pour nous de vous signaler qu'on a appris la mort de Dusty Hill, le bassiste de ZZ Top. Il avait 72 ans, et ZZ Top, c'est ça. Allez, laissez-vous tenter. Version soleil, c'est après ça, 8h41.